102.1.
Émission On en jase, ton émission du midi. Sur Boulevard 101, c'est la dernière de la saison, Pascal Séva.
C'est la dernière de l'émission du midi, effectivement.
Ben oui! Donc, on va terminer ça en souhaitant des joyeuses fêtes, certainement, nos auditeurs.
Merci pour la belle saison, Jeff.
Ah, merci pour la belle saison, Pascal Séva. On a vraiment du fun à faire cette émission-là.
Absolument.
Puis on va être full heureux de revenir le 5 janvier.
Oui.
Avec notre émission On en jase sur l'heure du dîner. Merci d'être à l'écoute. On est très, très, très choyés de faire de la radio avec vous, chers auditeurs. Puis si vous avez le goût, 418-971-1021, là. Dites-nous dans un petit projet que vous avez en fin de semaine ou pour le temps des fêtes. Oui. Un projet le fun!
Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que tout le monde tombe en vacances aujourd'hui?
Ouais, bonne question.
Qui tombe en vacances? Je sais pas pourquoi, tantôt, j'étais comme, ah, est-ce-tu la majorité des gens? J'ai regardé les réseaux routiers, c'était pas si mal.
Ouais, c'est vrai, travaillez-vous lundi, mardi, mercredi, parce que moi, Pascal et Mathias, on vous accompagne de 7h à 10h pour la programmation des fêtes. Max Larouche va être là de 11h à 13h avec le point de Max et Audrey Pinchot va être là de 14h à 18h pour les meilleurs moments de Gravel. Et le 24 décembre de 14h à 18h, c'est Gravel le temps des fêtes qui va être en rediffusion également le 1er janvier. Alors, une émission que les gens apprécient toujours dans le temps des fêtes. Il n'y a pas de doute. C'est fait, je viens tout juste. Éric qui écrit ça, j'ai dit, avez-vous des projets le fun? Quel était ton projet que tu viens tout juste de faire?
Ou tomber en vacances.
Ah oui, ça doit être ça, tomber en vacances. Ben, bonnes vacances, mon Éric.
C'est
le cas,
profites-en.
Ah, mais hein, tu le mérites. GP qui nous écrit, je suis en congé le 25 et le 1er, that's it. Oh. Fait que je vais être à l'écoute sans faute, compte sur moi. Hey, quel job tu fais, GP? Ça m'intéresse, ça.
En tout cas,
de
ça
savoir,
va être...
ça ressemble à quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé ou quelque chose comme ça.
Oui, oui, oui.
Pour avoir un horaire atypique comme ça. Et oui, je suis livreur de colis. On travaille jusqu'à mercredi. Bien, reste à l'écoute sans problème. JP qui vient de nous répondre.
Puis merci en passant de faire votre travail. Grâce à vous, je vais finir mes cadeaux de Noël à temps.
Ben c'est ça. JP, col bleu. Donc, va donner les rues, va s'organiser pour que la ville soit belle et pratique. En passant, marché allemand de Noël fermé ce soir en raison des vents et de la pluie. Donc, pour ceux qui voulaient aller faire un petit tour, ça va aller à samedi ou à dimanche. Il faudrait que j'y aille. Je suis juste allé vite cette année. Je n'ai pas encore fait assez le tour. J'adore tellement ça.
C'est vraiment une belle ambiance. C'est le fun. Ouais. Juste le stationnement, ces temps-ci, qui est difficile là, en Haute-Ville.
Oui.
Il y a beaucoup de parties de Noël et tout. Là, tu le sais, là, fait quand on y va, mettons une journée, comme un vendredi, un jeudi, vendredi, samedi. Nous, juste aller au restaurant, habituellement, ça nous prend 10 minutes. 10-15 de la maison. Mm-hmm. Ça nous a pris un bon 40-50, là. Et réussir même à se stationner la semaine passée. Là.
Oh, demande spéciale pour Pascal, et pas Pascal CV, mais Pascal de Québec, qui dit officiellement en vacances 2 semaines juste là, c'est l'heure de la petite frette. Viens donc m'emporter une, mon Pascal!
Hey, profite-en 2 semaines à Noël. C'est vraiment les congés, je trouve, où on relaxe le plus, outre la préparation de Noël. Les deux pieds sur le pouf, à ne pas se faire appeler par personne, puisque tout le monde est dans leur famille ou presque. Mais belle pensée pour les gens qui sont seuls aussi. Là. Je sais que c'est pas un moment qui est super facile.
Ah non, on est avec vous à 100% réellement.
Vois-tu, nous, cette année, on a encore un invité spécial. C'est un Marocain qui est...
Cool!
C'est un homme qui a travaillé pour mon père il y a quelques années, puis il revient comme ça, il est sur l'immigration, puis il travaille très, très fort. Puis à un moment donné, il est resté à Noël seul. Fait que mon père... C'est moi qui recevais cette année-là, m'a écrit et m'a dit
« Hey, je l'amènerai. »
Ouais, ça te dérange. Non, pas de problème, puis tout ça. Puis une fois de temps en temps, maintenant, il vient d'un parti de famille, puis ça se peut qu'on reçoive aussi son fils cette année.
Ça, c'est donc bien plaisant.
Oui, puis je me souviens, là, cet homme-là, c'est un homme qui n'a pas tous les moyens du monde, qui vient travailler pour assurer une pérennité pour sa famille et tout ça. Et quand il était retourné dans son pays voir sa famille, il a fait, parce qu'on l'avait invité, là, il était super reconnaissant, il a fait... 1h30 d'autobus aller, 1h30 d'autobus retour pour aller au bureau de poste parce qu'il n'était pas près de chez lui pour nous envoyer des dattes fraîches, des figues, du chocolat, des habits traditionnels. On capotait, on était. Tu sais, c'est trop de reconnaissance par rapport à ça. Mais tu vois un peu la chaleur de l'homme puis toute son humanité, là. Donc, c'est ça, on va avoir un invité spécial.
Ah, oh, wow! On a une auditrice qui nous écrit: je suis préposé aux bénéficiaires à domicile. J'ai congé juste le 25. Je prends pas de vacances. Je prends soin de mes patients.
Merci.
Joyeuses fêtes à vous deux. Wow, merci d'être là. Élie qui est dans le domaine de l'éducation, alors bon congé jusqu'au 5 janvier. Sa femme, cependant, qui est infirmière, elle a congé à Noël, mais pas au jour de l'an.
C'est souvent ça, choisir un des deux.
Puis honnêtement, merci. Merci de participer à la société comme ça. Infirmière, enseignant, c'est des métiers tellement importants pour notre, notre société. Stéphane qui est en congé pratiquement jusqu'au 14 janvier. Bon congé, mon Steph. Nadine qui finit mardi à midi, reprise le 5 janvier. Mylène qui a congé seulement les vendredis, donc elle va être avec nous. Merci de continuer à nous écrire comme ça. Ça nous fait tellement plaisir de vous lire et de vous savoir là. Pascal, hier, même si je ne suis pas un fan du Canadien de Montréal, j'ai eu les frissons lorsque ceci est arrivé.
Tu m'as dit après la première période que tu allais t'en faire parler de ce premier but au Centre Bell. Tu t'es pas arrêté à un. Tu en as marqué deux, dont ton premier but gagnant en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Comment on se sent? Comment on se sent après ces deux premiers buts-là?
C'est un privilège de jouer ici. Devant parents et amis, devant vous, les partisans, vous êtes déjà passionnés. Donc, c'est une belle chose accomplie, puis je suis content de mettre ça derrière moi.
Zachary Bolduc, un petit gars de Trois-Rivières, Pascal, qui a joué ses deux dernières saisons juniors avec les Remparts de Québec, qui a tout remporté, la Coupe du Président, la Coupe Memorial. Ça donnait l'année de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial que les Remparts ont gagné le championnat. J'étais toujours assis dans les estrades au Centre Vidéotron quand j'y allais avec mon père à côté de la mère de Zachary Bolduc.
Ah, ouais. Elle était tout le temps là,
la
c'est
mère
sûr,
de Zachary Bolduc qui était toujours assis avec la mère de William Rousseau qui était le gardien de but des Remparts. Et si tu savais les sacrifices qu'ils ont faits en tant que parents. Tu as deux parents qui viennent de Trois-Rivières. Elle travaillait dans le domaine de la santé. Son mari était gestionnaire pour une compagnie privée. Puis tu sais, c'est de l'argent qu'ils ont dépensé pour que Zach ait dans les meilleurs camps de hockey, pour que Zach fasse du hockey, fasse du hockey une passion, puis rêve à la Ligue nationale. Il a été repêché en première ronde, 17e au total, avec les Blues de Saint-Louis en 2021. Il a vécu une grosse déception à sa dernière année junior, alors qu'il n'a pas été invité au camp d'entraînement d'équipe Canada junior pour le championnat mondial. Malgré ça, il a persévéré une année dans la Ligue américaine. L'an passé, il est devenu un joueur régulier dans la Ligue nationale. Et là, boum, échange aux Canadiens de Montréal durant la période estivale. Joue présentement sur le premier trio avec Cole Caulfield et Nick Suzuki. Il avait 7 buts depuis le début de la saison, mais les 7 sur des patinoires adverses. Aucun au Centre Bell. Hier, il en a marqué 2, les 2 premiers de l'équipe. Et c'est l'ovation monstre qu'il a reçue. Fait que j'ai eu une pensée pour sa mère, que j'ai accompagné pendant à peu près 20 matchs des Remparts cette année-là, qui était nerveuse à chaque match comme si c'était le premier match qu'elle regardait, qu'elle parlait à Zach à chaque fois qu'il était sur la glace. « Ah oui, vas-y, mon homme! »
Ah,
oui,
beau jeu! » Elle suivait la
L'enfer, l'enfer! Une femme exceptionnelle. Et hier, je me suis dit, bon Dieu, qu'elle devait être fière de son petit gars quand il s'est fait ovationner.
Elle devait pleurer. C'est émouvant. Tu sais, moi, ce matin, je ne comprenais pas. Je vous ai posé la question pourquoi il y avait ovation de ce type. Puis là, c'est vous qui avez commencé à m'expliquer un petit peu plus comment ça. On tripait sur Zach Bolduc. Puis pourquoi on était si fiers de lui à domicile de cette manière-là. Imagine quand t'es parent.
Ah oui, ça devait être une très grande fierté. J'imagine que tu dois assister à peu près à tous les matchs au Centre Bell, compte tenu qu'il réside là, dans la région de Trois-Rivières. Alors, chapeau à Zach Bolduc, l'ancien Rempart de Québec, qui a réussi un doublé hier dans la victoire du Canadien 4-1. C'était un très, 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 très beau moment de sport pour un petit gars de Trois-Rivières. Pascal, dans l'actualité, les médecins sont heureux. 97% d'approbation sur la nouvelle entente.
Oui, juste avant, je veux juste confirmer qu'il y a des petites pannes électriques ici et là, vu
très bonne idée.
Vu la météo. Québec n'est pas beaucoup affecté. Il n'y a rien vraiment à signaler. Par contre, sur les routes, on peut signaler incident Henri IV Sud, hauteur chemin des Quatre Bourgeois, la voie de droite qui est partiellement entravée. Je fais le réseau routier, Jeff, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des sorties de route, entre autres du côté de la STL, Société de transport de Lévis. Ce matin, il y a un autobus qui a pris le clos, qui a réussi à faire une sortie de route, aller frappé un poteau électrique. Le fil est tombé sur l'autobus. Il a fallu attendre les services d'urgence qu'on tasse justement ce fil-là pour éviter que les gens soient plus blessés. Il y a eu quelques blessés, mais on craint pour la vie de personne et l'état de santé de personne dans ce cas-ci. Alors, les médecins, oui, 97 % officiellement entérinent l'entente de principe conclue avec Québec. Ça veut dire que les médecins de famille sont majoritairement d'accord. Après 2 ans et demi de négociations, on en est là. Adoption de l'entente, ça a été confirmé, ainsi que les amendements qui devront être apportés à la loi 2. Ça, c'est au moment où il y a une nouvelle ministre de la Santé qui entre en poste, parce qu'on apprenait ce matin qu'on en avait une nouvelle. On avait un petit peu d'informations à ce sujet-là hier, mais officiellement, c'est Sonia Bélanger qui est la nouvelle ministre de la Santé. Donc, elle va devenir assez importante dans un ministère assez important pour les prochains mois, la prochaine année. C'était l'actuelle ministre responsable des aînés des services sociaux. Elle cumule toutes les fonctions pour l'instant. Au retour du temps des fêtes, François Legault va probablement nommer un bras droit pour partager les tâches et essayer qu'ils travaillent en collaboration, parce que ça risque d'être assez ardu, le travail qu'ils vont avoir à faire. On dit que, pour rappel, la loi 2, ben, c'est la réforme sur le mode de rémunération des médecins. Ça avait été adopté sous le baillon en octobre dernier. Et il faut savoir aussi qu'en plus de favoriser la prise en charge de 5000 patients supplémentaires, il y en a plusieurs en situation de vulnérabilité là, là-dedans. L'enquête s'est inscrite officiellement dans la volonté de faire une transformation de la première ligne. C'est peu d'explications, mais c'est une énorme annonce. Transformation de la première ligne, là, ça va bouger et branler dans les brancards. On va suivre ça sûrement au retour du temps des fêtes.
On va tenter d'en savoir plus tout à l'heure aux alentours de 13 heures, parce que Pascal Renaud, président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec et médecin à l'urgence de l'hôpital L'Enfant-Jésus, va être avec nous en studio. Donc, moi, c'est ça. Je veux comprendre la mécanique. Oui. Comment qu'on va réussir à avoir plus de patients si on n'a pas nécessairement donné tant d'objectifs de performance? Donc, c'est ça que je veux comprendre.
Puis, est-ce que c'est possible aussi, là? Moi, je me demande si on n'a pas plié à quelque chose qu'on pense pas très facile
t'as
à réaliser.
T'as entièrement raison. C'est quoi le réalisme dans cette entente-là?
Parce que là, on parle des médecins de famille. Puis, dernièrement, j'ai eu la conversation avec la mienne, 75 ans, pratique encore, et là.
Ouais.
Puis, elle m'expliquait que ce qui avait été discuté, c'est tous ceux qui sont dans le rayonnement du GMF où elle travaille, pour beaucoup, embarquerait sur la liste de patients. Elle m'a dit, je vais devenir beaucoup moins disponible pour les patients qui sont déjà sur la liste, qui remplissent déjà mes horaires abondamment, que j'ai déjà de la misère à remplir tous ces patients-là. Et il va y avoir des nouvelles personnes. Fait que, est-ce qu'on va être dans le retour de la pastille aussi sur le patient? Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir
Il faut comprendre. Parler avec Doc Renaud. Il va être avec nous en studio.
Marc Tanguay revient dans l'arène. Il attend le nouveau capitaine du Parti libéral du Québec. Mais il est nommé chef intérimaire. Donc, tout porte à croire qu'il ne sera pas à la course au leadership. Hein? On vient de conclure quelque chose au questionnement. Est-ce que ça pourrait être Marc Tanguay d'ici l'élection d'une nouvelle personne qui va amener... On espère, surtout du côté des libéraux, le parti a rayonné à nouveau. Bien, c'est le député Marc Tanguay qui va être le chef par intérim. Il l'avait déjà fait, vous le saviez. Ça s'était bien passé. Alors, il reprend le flambeau suite à la démission de Pablo Rodriguez. Nouveau délai dans le dossier de Dominique Laroche. Donc, Dominique Laroche est l'ex-skieur acrobatique. Il va devoir patienter derrière les barreaux plusieurs mois parce qu'on va devoir connaître la peine qu'il va purger beaucoup plus tard. L'étape des observations sur la peine, c'est ça qui a été repoussé. Et puisque la nouvelle avocate de Dominique Laroche, qui est, je vous rappelle, reconnue coupable de crimes sexuels sur une adolescente, a demandé plus de temps pour prendre connaissance de ce dossier-là qui est épais de même. Là. Il est épais.
Puis ça fait plusieurs avocats qui passent dans le dossier. Là. On sent que Dominique Laroche tente par tous les moyens encore de se victimiser. Là.
Puis là, on vient d'être avisé, en fait, parce que c'est 20 minutes avant le début de l'audience d'aujourd'hui, là, de ce matin, qu'on a avisé la juge Marie-Claude Gilbert de tout ça par courriel. L'avocate de Dominique Laroche, une avocate de Montréal, elle était là aux procédures par visioconférence. Elle a pris les rênes, effectivement, dans le dossier de Dominique Laroche, mais il y a seulement 6 semaines. Alors, je pense qu'il faut qu'elle se mette une tête dans le dossier encore plus longtemps qu'elle pensait. Report au printemps, en fait, pour les tribunaux dans ce qui concerne la cause de Dominique Laroche. Vol chez les concessionnaires, on ne sait plus quoi faire. Ça, c'est une citation d'un propriétaire de Ford Thetford, donc à Thetford Mine, Véronique Jacques, et le matin du 8 novembre, il y a un employé qui a remarqué qu'il y avait la poignée d'un F-150 qui était endommagée. Là, rapidement, on a fait venir tous les vendeurs pour savoir s'ils ont vu quelque chose ou s'ils savaient quelque chose. Et là, c'est un problème qui devenait de plus en plus récurrent et un problème aussi dans plusieurs concessionnaires. Ils sont découragés, ils ne savent plus quoi faire pour contrer ça. Ils ont une très grosse crainte parce que ça coûte très cher à faire réparer. Puis Véronique a pris la parole à visage découvert pour en parler. C'est pas le premier vol pour la propriétaire. Elle continue de prendre des mesures de sécurité, mais elle ne sait plus quoi faire. Elle est allée même jusqu'à couper des fils pour éviter que les véhicules puissent démarrer. Elle dit que ce n'est pas suffisant, il faut trouver d'autres solutions. Là, on va mettre des tags dans les véhicules, on va déconnecter les batteries, on va enlever une roue. Elle dit je ne sais plus ce qu'on va faire, mais il faut que ça cesse. Et ça, il y en a plusieurs qui le déplorent chez des concessionnaires, que les vols sont, un, plus créatifs, deux, plus fréquents et, sincèrement, avec beaucoup aussi de vandalisme.
Une petite dernière pour la route?
Oui, je pourrais te parler, si tu en veux, une petite dernière pour la route. Une nouvelle un petit peu plus cocasse, tiens, OK? Justin Trudeau a fait rire de lui. Justin Trudeau est victime d'intimidation.
Ah oui, j'ai vu ça.
De la part d'un acteur très connu, OK? L'acteur Russell Brand. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Probablement, si vous le tapez sur Google, son visage va vous paraître familier puis vous allez reconnaître. Bon, c'est pas celui qui a le plus beau CV en ce moment, là. Il est quand même accusé de viol et d'agression sur plusieurs femmes. Mais en ce moment, il était sur scène et il a pris la parole parce que vous le savez ou pas, Russell Brand a été marié à Katy Perry de 2010 à 2012, puis là, il s'est permis de critiquer leur relation amoureuse. Il a dit ah, « Moi, j'ai rien contre Orlando Bloom, là. Ça a été... Le fiancé de Katy Perry avant oui. Justin Trudeau. Moi, j'ai rien, là. J'ai rien.
J'ai rien contre lui, là.
Mais moi, j'ai été mariée à Katy Perry. Je l'aime encore. Je suis content que sa mère soit là pour m'entendre dire ça. Mais franchement, j'ai rien contre Justin Trudeau, mais Justin Trudeau... contre Orlando Bloom, mais Justin Trudeau... Voyons, faut pas me comparer à ce pantin mondialiste.
Justin vient d'en prendre pour son rhume par Russell Brand. Russell Brand, par contre, qui est accusé d'agression sexuelle, là, présentement.
C'est ça que je te disais.
C'est ça.
Oui, absolument. Donc, là. Donc cinq chefs d'accusation d'agression puis de viol par quatre femmes. Il nie les accusations. C'est pour ça qu'il n'a pas la plus belle jambe en ville. Il est encore sur scène parce qu'il est en attente du procès.
Exactement. On va de ce pas, Pascal, rejoindre notre collègue Irénée Rutema, chroniqueur en politique municipale, qui a dit « Jeff, j'ai une bonne idée. Je veux te faire une petite revue de l'année de politique municipale en cinq thèmes. » Irénée, comment vas-tu?
Ça va bien. Donc, content de jaser avec vous. Ça va bien, mais écoutez, il ne fait pas très beau.
Non, ouais.
J'avais une rencontre ce matin dans un café à côté de chez moi. Là, je suis revenu chez moi. Il pleut. J'ai une rencontre à 14 heures. Ça se pourrait que je cale malade, mais je ne peux pas caler malade.
Ça ne te tente pas de marcher à l'appui, René, je comprends très bien.
Pas du tout. Je vous écoutais tantôt. Donc, ouais. Où j'habite, il y a souvent quelques pannes d'électricité. Donc, tous mes appareils sont connectés, sont branchés. Je ne veux pas vivre sans appareil électronique cet après-midi et demain.
Hey, je comprends très bien. C'est 5 degrés, hein, pluie parfois forte pour aujourd'hui, jusqu'à 50 mm de pluie, des rafales allant jusqu'à 70 km/h. Soyez prudents à l'extérieur, soyez prudents sur la route. Irénée, 5 points que tu voulais faire comme revue de l'actualité municipale. Et là, j'y vais au hasard, je te fais écouter quelque chose. D'après moi, il y a un point là-dessus.
Écoutez, moi, je dirais toujours que c'est un mauvais projet. Par contre, les gens qui étaient contre le tramway devaient s'exprimer. J'ai forcé d'admettre qu'ils ne l'ont pas fait. Pour le reste, je veux dire, à partir du moment où tu ne t'exprimes pas, tu ne peux pas chialer. Alors, mais moi, je ne changerai pas de discours au niveau du tramway. C'est un mauvais projet, mais on doit composer avec les résultats.
Irénée, premier point selon moi en politique municipale, la victoire du tramway, la victoire de Bruno Marchand. On met les tractations de côté et on va de l'avant avec le projet.
Je suis 100% d'accord avec toi. Et le tramway est le grand mot de l'année dernière, là, avant l'élection et même avant la campagne électorale des dernières quatre années du mandat de M. Marchand, quand il avait déclaré durant sa première campagne qu'il allait être capitaine mobilité. Alors, c'était le mot qui était sur les lèvres de tous les candidats, de tous les chefs, durant l'année dernière, durant la dernière campagne électorale. Les résultats des élections étaient très, très clairs, comme M. Lachance vient de le dire, et le tramway va aller de l'avant. Le gouvernement Legault, qui était très tiède pendant la dernière, les dernières années, a décidé que affirmait que le projet allait aller de l'avant. Monsieur Lachance l'a reconnu, bravo à lui. Et il a rencontré Monsieur Lalbin la semaine passée pour parler du financement du tramway. Monsieur Lalbin a indiqué que eux, et c'est quand même fascinant, on n'en parle pas assez souvent, ils attendent une demande officielle du gouvernement du Québec, la telle demande qui n'a pas encore été acheminée au gouvernement fédéral. Alors le tramway, sérieusement, là, c'est le grand gagnant de l'année. Politique municipale.
Vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi. Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec ça?
Oui, absolument. Puis on y a parlé à Bruno Marchand hier aussi, puis on trouvait que le ton était bon. On débutait l'année, le mandat, avec une attitude, je pense, qui va faire plaisir aux électeurs.
Autre point marquant, oui. On a eu une campagne électorale très sale où ça a joué dans les basses cours. Il y a eu des articles de journaux qui ont fait mal à certains candidats. Mais après tout ceci, c'est la réconciliation.
Oui.
Ben, moi, la seule chose que j'aimerais, puis il le sait, là, puis en tout cas jusqu'à présent, par contre, on est très tôt dans ce mandat-là, j'ai lui ai demandé de ne pas aller dans la condescendance. Alors, c'est ce que je lui ai demandé en tant que tel. On est d'accord que sur plusieurs points, on ne sera jamais d'accord. C'est évident. Mais je pense que, puis ça peut-être au niveau du débat public de façon générale, je pense qu'on doit faire évoluer ça auprès de la population dans le sens que si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ça ne fait pas pour autant votre interlocuteur un imbécile ou quelqu'un que vous devez dénigrer.
Une bonne stratégie pour toi, Irénée, Stéphane Lachance, de revenir dans un ton collaboratif après une campagne électorale. Là. Parce qu'on n'avait jamais vu ça à Québec, une campagne électorale sale comme ça.
Non, dans le temps de Régis Labeaume, moi, j'avais vu avec Anne Guérette qui se faisait traiter de
ça. Ah, c'est vrai,
ça,
t'as raison.
Même entre Lévis et Québec, c'était pas beau. Mais là, on était juste ou presque là-dedans, j'avoue.
Oui, alors donc, mais là, je n'avais pas entendu la déclaration de M. Lachance en parlant de condescendance. Là, je pense qu'il est allé très, très fort. Donc, il présumait que M. Marchand était condescendant. Cela dit, Stéphane Lachance, le nouveau chef de l'opposition officielle, quand même un résultat honorable de 24% parce qu'il était parti à 3%, il s'est engagé à être un chef d'opposition constructif, qu'il allait collaborer, qu'il y a des bonnes décisions, il allait les souligner, les appuyer et critiquer si c'est nécessaire. Et je pense que c'est vraiment, j'aime l'entendre dire ça. Et il a reconnu aussi parce qu'il n'a que trois, quand il ne sont que trois au conseil municipal. Et sérieusement, je salue ça, je trouve ça humble, constructif. Ma seule question est jusqu'à quand cette lune de miel va durer.
Ouais.
Parce que la politique étant la politique, cyniquement, et je n'aime pas dire que je suis cynique, mais parfois je le suis, en 2026, ça va brasser parce que il va y avoir des travaux majeurs. Moi, j'habite à côté de René Lévesque. Mm-hmm. Je pense que René Lévesque, ça, ils vont fermer. Il n'y aura pas de 800, de 801. Le 801 va peut-être passer sur Grande Allée. Alors, les gens ne seront pas très heureux, mais la lune de miel devrait se terminer, on va le dire, au printemps 2028.
Penses-tu, Pascal, qu'on va revenir justement avec des auditeurs qui vont être frustrés contre Bruno Marchand avec les travaux du tramway? Parce que hier, moi, ça m'a marqué. Puis ça m'a marqué aussi avec l'entrevue que Denis avait fait dans Gravel dans le retour avec Bruno Marchand, à l'effet que les auditeurs se sont vraiment rangés derrière le résultat démocratique. T'sais, on reçoit peu ou pas de commentaires agressifs envers Bruno Marchand.
C'est vrai qu'on n'a pas eu de commentaires en ce sens-là, puis habituellement, on peut en récolter quelques-uns. Je pense que les gens ont fait comme, ben, il va se faire.
Oui.
Pourquoi je mettrais de l'énergie là-dedans? Donc, est-ce qu'ils sont devenus en accord avec le projet? Je pense pas, mais ils se disent ils vont le faire. Puis de toute manière, si c'est pas qu'ils se rangent derrière le résultat électoral, ils se rangent aussi devant le temps qui a passé. Puis que le temps qui passe encore. Puis qu'ils savent que si on fait rien, bien, il y aura rien qui va bouger, puis ça va être encore plus étonnant. Mais je suis certaine qu'au moment où on va commencer à creuser, à exproprier, à faire en sorte que les voix deviennent dans un sens unique, que etc., là, ça va être encore les mêmes revendications qui vont ressortir. Et avec beaucoup de compréhension pour ces gens-là aussi. Ça va être des quartiers qui n'auront plus la valeur qu'ils ont déjà eue. Ça va être une autre valeur, peut-être une ajoutée, peut-être une retirée, mais ça va attiser la grogne.
T'en penses quoi, Irénée? T'es d'accord avec ça?
Ah oui, je suis d'accord avec ça à 100%. Et même moi qui suis pour le tramway, qui est pour la mobilité active, marcher, prendre le vélo, donc je prends souvent l'autobus. Quand j'ai entendu que le tramway, les travaux allaient être intensifiés sur René Lévesque, là, j'ai failli chialer contre moi-même. Là.
Mais c'est souvent ça. Honnêtement, c'est toujours OK, mais pas dans ma cour. Quand ça arrive dans la cour, c'est plus tough.
Je me suis dit, ah, peut-être que ça va perturber ma vie, ma routine quotidienne. Mais à long terme, là, c'est un bon projet. Mon amoureuse vient de Bordeaux. Elle me dit souvent que quand ils ont entamé les travaux, les gens étaient contre. L'autre tramway terminé. Mm-hmm. Tout le monde est content, il n'y a plus personne qui se plaint. Donc, je pense qu'on va vivre un petit peu de perturbation, mais à long terme, c'est un bon projet pour Québec.
Parlant de perturbation, petite parenthèse, il y a un véhicule en panne sur le pont La Porte, direction sud, donc problématique à ce niveau-là. Premièrement, vous pouvez être surpris, puis deuxièmement, il y a un ralentissement à prévoir. Soyez prudents.
Irénée, tu parlais de ta conjointe qui vient de Bordeaux. Les femmes ont pris la place dans la campagne électorale. On écoute Stéphane Lachance.
Peu importe ses opinions politiques, que ce soit en faveur de respect citoyen ou d'un tout autre parti, moi, ce que je veux, c'est que les femmes s'impliquent et votent. Donnent leur opinion, parce que c'est important. On ne doit pas laisser des gens décider pour soi-même. Alors que ce soit pour respect citoyen ou pour tout autre parti, ils doivent, en tant que tels, s'exprimer. Ils ont le droit à ça. Ils font partie de notre tissu, de la société québécoise, de la société de la Ville de Québec. Puis on doit, ils ont leur place, puis dire leurs mots, peu importe leurs opinions.
OK, Irénée.
Faites attention à votre voix, monsieur
Oui, monsieur Lachance. Irénée, le magnétisme de Bruno Marchand avait pris toute la place dans la campagne électorale avec Stéphane Lachance, le rendez-vous pour les femmes. Je me suis rendu compte que les femmes votaient pour Bruno Marchand. On a niaisé Bruno Marchand quand il est venu en nombre, Pascal, tu t'en rappelles, avec toi et Anthony.
Fait que là, maintenant, vive les femmes. Bravo, les femmes.
C'est ça.
Toujours les femmes.
Monique Néron.
Femme, chantait Serge Lamant.
Fait qu'on n'a pas le choix de dire qu'en 2025, en politique municipale, les femmes ont pris énormément de place.
Écoutez, premièrement, la déclaration de Monsieur Lachance, c'est vraiment une déclaration, mon oncle, rétrograde, malhabile. Cela dit, le mot magnétisme, je l'aime tellement que mon amoureuse n'est plus capable de l'entendre et n'en peut plus. Je pense que si ça continue, je vais dormir sur le divan très, très souvent. Ça, c'est un peu un lien comme la fougère. Là. Ah, ta fougère, gère ta fougère. Mais le magnétisme, le mot ne passe plus à la maison. Mais j'ai été frappé par cette déclaration. Et il faut le dire, là, on va le souligner, M. Marchand, c'est un bel homme. Il est sportif. Il est originaire avec ses espadrilles. Et donc, je pense qu'il a magnétisé beaucoup de femmes, il a magnétisé beaucoup d'hommes aussi. Et pour une petite parenthèse, mon amoureuse qui vient de France, donc qui travaille dans la relocalisation des immigrants, quand M. Marchand est sorti pour l'immigration, vu qu'elle n'aime pas qu'elle utilise le mot magnétisme, je dis « Ah, t'as été magnétisé! » Finalement, elle a dit oui.
Fait que t'as peut-être sauvé une nuit sur le divan avec ça, Irénée.
Exactement, là.
Campagne électorale qu'on parlait tout à l'heure, Irénée, très sale. Voici justement le moment fort de cette campagne-là.
Alors, nous, ce qui était important, c'était de mettre toutes les options sur la table, faire une ultime tentative, puis c'est aussi simple que ça.
C'est Marco Saint-Denis.
C'est vrai, lui offrir le poste de directeur général de la Ville de Québec, mais ça, c'est en rupture avec les règles électorales, M. Roussin, ça.
On était prêt à offrir n'importe quoi qui est réalisable, qui est faisable, qui est légal. Aussi simple que ça. Alors, name it, en bon français, excusez-moi l'expression.
Mais on l'a vu à Saguenay, donc la mairesse qui a été condamnée pour des propos comme ceux-là. Donc, c'est interdit de faire ça, M. Roussin.
Irénée, vraiment, ça a été le... Puis là, je vais prendre l'expression anglaise, le game changer de la campagne électorale. Lorsque c'est sorti que Marc Roussin l'a confirmé qu'on avait offert des postes à Sam Ahmad... Oui. Dégringolade de Sam Ahmad, stagnation de respect citoyen et montée fulgurante de Bruno Marchand.
Écoutez, cette donc proposition indécente, quel manque de jugement politique, quel manque d'intelligence politique, c'était vraiment des amateurs. Monsieur Lachance, je peux lui pardonner, mais monsieur Hamad, qui a été ministre sous le gouvernement Charest et pour monsieur Kiar, ne pas connaître la base des règles électorales, donc c'était vraiment c'était pas brillant. Je veux être très très gentil aujourd'hui là, je ne veux pas être you don't shoot at an ambulance, mais c'était fascinant de voir les deux parties d'opposition sans trop déchirer, se tirer dessus, après ça porter des plaintes au directeur général des élections. J'en ai jamais vu non. Ça. Et en tout cas, moi, j'ai été renversé. Et il faut, ne faut pas oublier que c'était presque mafieux, parce que ou enquête, je ne sais pas, parce que Monsieur Roussin a enregistré la conversation qu'il avait eue avec un représentant de Sam Hamad, où donc les deux parties se marchandaient finalement les postes en demandant à l'un ou à l'autre de se retirer. Un enregistrement qui a été remis au directeur général des élections, mais quel manque de jugement, quel manque d'intelligence. En tout cas, ça m'a vraiment renversé de voir les deux parties s'offrir des postes comme ça.
Pascal, assez ironique de voir que Sam Hamad, un ancien libéral, a trempé justement dans cette magouille-là, et là de voir ce qui est arrivé au Parti libéral du Québec dernièrement avec la course à la chefferie de Pablo Rodriguez.
Absolument.
Ça se posait des questions sur la culture organisationnelle des gens qui viennent, puis là, je vais le dire comme ça, du vieux PLQ.
Parce que
ça a passé longtemps, ça a passé souvent. T'sais, si tu te fais élever d'une manière, peut-être que t'es pas une mauvaise personne, mais c'est comme ça que tu l'as appris, puis tu penses que ça se fait de même. Mais effectivement, il faut faire du beau ménage, là, pas juste avec du Windex.
Non, exactement. Irénée, je termine en 30 secondes avec toi sur l'amour. Oui. Jackie Smith est amoureuse de Québec, mais malheureusement, Québec n'est pas amoureux de Jackie Smith, malheureusement pour elle.
Oui, exactement. Et elle a eu une au début, sa campagne était bien, sa présence est pertinente. Et à la fin de la campagne, là, elle a été pragmatique. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais elle a été réaliste en disant « Je choisirai toujours Québec, mais peut-être que Québec ne me choisira pas. » Donc, elle a reconnu sa défaite avant la fin de la campagne électorale. Et donc, j'étais triste pour elle. Cela dit, je crois que pendant la campagne, elle était célibataire. À la fin de la campagne, elle a dit qu'elle avait commencé à dater. Alors, je ne peux que lui souhaiter vraiment de trouver l'amour, de trouver quelqu'un qui va l'aimer. Et je vais vous faire rire un peu, j'espère.
Ben oui.
Donc, je vais lui souhaiter des mimosas.
Des mimosas, comme Bruno Marchand souhaitait aux gens, des mimosas. T'as bien raison, mimosas pour le temps des fêtes, Irénée, je suis d'accord avec toi.
Information d'ambiance, moi j'ai vu Jackie Smith dans un somptueux établissement de la ville de Québec sur la 3e avenue, somptueux étant le bal du lézard.
Donc,
ce bar-là, moi je l'aime bien ce bar-là.
Oui, c'est un beau petit bar de quartier pour bien de l'information puis voir ça rouler là.
Vraiment. Donc Irénée Rutémont, tu souhaites des excellentes fêtes, on te souhaite un bon début d'année 2026 et au plaisir de te reparler en 2026 à l'émission On en jase avec tes chroniques qui sont toujours succulent.
Merci à vous deux. Merci pour la collaboration. Merci pour la complicité. Et je vais conclure là. Merci, vous m'avez magnétisé.
Oh, Irénée, t'es trop gentil. Salut, mon ami. Joyeuse fête. Salut, Irénée Rutémont. Fais toujours des petites chroniques avec un ton humoristique comme ça. J'aime bien là, ces mots, le magnétisme. Je vais coucher sur le divan à cause de ma blonde. Pascal, on dit qu'il faut vraiment qu'on lave à l'eau de Javel pur.
Oui, c'est ça. J'avais dit. Ça prendra pas juste du Windex, ça, c'est sûr. Hey, on a une information d'ambiance on parlait des travaux du tramway, comme quoi, pour l'instant, personne chiale nécessairement, entre autres sur nos textos quand on en parle, mais quand ça va devenir lourd, quand ça va devenir concret, assurément qu'on va revenir dans un round où il va falloir expliquer puis assurément respirer. Il y avait beaucoup d'assurément là-dedans, mais ce qui nous est venu par texto, c'est assurément justement des informations d'ambiance, mais les travaux coin René Lévesque puis Belvédère commenceraient après les fêtes. Donc, ça va être lourd, mais le projet est rendu là. Ça avance. Ça va faire travailler beaucoup de monde aussi, oui. Qu'on soit d'accord ou pas avec le projet. Mais en janvier, on devrait voir les premiers travaux coin René Lévesque et Belvédère, selon des informations de Corridor.
Pascal, avant d'aller à la pause et de passer à Lambert-Drainville et nos souhaits de 2026 en politique provinciale, parlant de politique provinciale, Stephen Blainey, qui fait du municipal, s'est ingéré comme Bruno Marchand dans le provincial.
Oui. Stephen Blainey qui a envoyé un communiqué avec son équipe dans les dernières minutes pendant qu'on parlait à Irénée. Je vais vous en parler un peu, je vais vous le lire un peu. Là, entre autres, ce qu'on dit, c'est que le maire de Lévis a tenu son point de presse et on a invité les paliers supérieurs à poser des gestes concrets, des assouplissements aussi au programme des travailleurs étrangers temporaires pour que ce soit mis en place rapidement. Puis on a même déploré les situations inacceptables sur le plan humain qui forcent plein de travailleurs étrangers qui sont pleinement intégrés à la communauté, entre autres lévisienne, là, c'est sûr que c'est son territoire, à quitter la région malgré leurs contributions essentielles, contributions depuis des années, contributions avec un cercle social, etc. Donc, le programme des travailleurs étrangers temporaires, ça, c'est comme un levier indispensable pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans plein de régions où le bassin de travailleurs disponible est insuffisant. Et on plaide encore qu'on en a besoin. Donc, récemment, notamment les plafonds imposés et la réduction de la durée des permis, ça ne tient pas compte des réalités régionales. C'est ce que Stephen Blainey dit, puis ça accentue aussi la pression sur les entreprises comme sur les travailleurs.
En effet, Jean-François Roberge qui a mis de la pression sur le fédéral en disant délivrer des permis temporaires le temps qu'on règle le tout. Puis Joël Lightbound qui a répondu ben vous avez tout en main pour faire la job. Fait qu'on s'empriète dans une autre chicane provinciale fédérale alors que des gens inquiets, des travailleurs inquiets ici, autant dans la région de Chaudière-Appalaches que Capitale-Nationale. J'espère que dans le temps des fêtes, Jean-François Roberge et Joël Lightbound vont penser à leur position et vont dire ouais, on pourrait faire un beau cadeau à ces personnes immigrantes-là. Puis je les appelle personnes immigrantes, mais c'est même plus des immigrants pour moi. Ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils sont ici, en Capitale-Nationale ou en Chaudière-Appalaches. C'est des résidents à part entière. En passant, Pascal, on dit que t'es comme Sarah Dufault, semi-route, semi-trail, parce que tu vas au bal du lézard et à la grande gastronomie. Je suis d'accord.
Mais honnêtement, oui. J'appelle ça hybride, mais... Je peux prendre ce que Sarah... Mais, Yann, il aime bien ça de taper sur le chou avec le fait que j'aimais les grandes affaires grandioses. J'aime tout, mais je suis vraiment une passionnée de la restauration.
Je suis comme toi. J'aime autant aller chez Bouleux que j'aime aller dans un pub.
Mm-hmm.
Je m'y retrouve aux deux places.
Et ma poutine de cantine, là, sur le bord de la route, je veux la cantine là, qui va fermer l'hiver. Oui. C'est celle-là que j'aime.
Celle-là que, qui reste toujours trop de gras dans le fond de la friteuse.
Ouais, puis que tes frites sont un peu noires parce que l'huile n'est pas changée chaque jour. Puis c'est ça qui fait que c'est meilleur.
Oui, t'as tellement raison, c'est ça qui donne le goût. Lambert Drainville est branché à notre Zoom. Il m'a écrit « Quand est-ce que t'arrives, Jeff Fortin et Pascal Cévin? » Mais après cette courte pause, mon Lambert Drainville, on va faire nos souhaits de 2026 en politique provinciale. Puis évidemment, on va demander à Lambert de commenter quelque peu la démission de Christian Dubé. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Je vous parle de Ludovica Miniland qui se déroule présentement à Laurier-Québec. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand parc de type Legoland en Amérique du Nord et c'est né ici à Québec en 2010. Vous pouvez y aller seul, vous pouvez y aller en famille, mais chose certaine, vous allez voir une reproduction gigantesque de la ville de Paris qui a servi pour un documentaire de Universal Studios. Il y a plein d'autres bâtiments également patrimoniaux à voir à travers le monde dans cette exposition de plus de 3000 reproductions. C'est gratuit, c'est à Laurier-Québec, c'est présentement, donc tu vas aller faire ton magasinage des fêtes, puis tu dis en même temps, ah tiens, les enfants, je vais leur offrir un petit spécial, Ludovica Miniland est là pour toi. Pour plus d'informations, ludovica.ca.
La Kia à Boulevard 102.1.
On en jase, Boulevard 102.1. On s'apprête à faire une chronique que t'adores faire, Pascal Cévin, je le sais, c'est les souhaits à nos politiciens pour 2026.
Ouais, ça, j'adore ça, parce qu'on a comme un petit pas de recul. En même temps, on n'a pas toute l'information.
Ben non!
Fait que nous, on peut le faire, mais quand on le fait avec des gens qui ont un peu plus d'informations, parce qu'ils ont eu un pied dedans, puis c'est le cas de le dire, ben moi, je trouve ça toujours le fun de voir qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux politiciens. J'ose croire qu'il y en a certains qui écoutent.
J'ose le croire. Moi, bon, je te dirais qu'on est pas mal écoutés, parce que j'en reçois des textos, moi, d'attachés de presse qui disent « Hey, t'as dit ça, pourquoi? » Puis là, je dis « Ben, pour ça! »
Ça, c'est bizarre.
Ah non, j'aime ça. Ils font leur job. Ouais. Je serais pareil.
OK.
Je te le dis. 418-971-1021, c'est pas mon numéro de cellulaire, mais c'est le numéro pour nous rejoindre en onde. Vous pourrez faire vos souhaits, vous aussi, chers auditeurs. BLVD.fm, c'est la web radio et nos meilleurs moments qui se retrouvent là. BLVD 101, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. Twitch.tv/BLVD/FM. Ça, c'est pour venir voir nos belles faces en studio. Et les haut-parleurs intelligents Pascal CV, on dit quoi?
BLVD 101.
Yes, sir! C'est toutes des façons de nous écouter. Et surtout durant le temps des fêtes, lorsque vous allez voyager. Lambert Drainville, s'il y a bien quelqu'un qui a besoin de réconfort pour le début de l'année 2026, puis j'ai l'impression de me répéter de ce que j'avais dit en début 2025, c'est François Legault, parce que le départ de Christian Dubé hier lui fait mal.
Ouais, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça en dit long aussi, le fait qu'il quitte à ce moment-ci. C'est dans une perspective où il aurait voulu quitter peut-être d'une façon plus noble, de prendre le temps de parler à ses collègues, au premier ministre. Il aurait pu faire ça durant le temps des fêtes, puis préparer sa sortie après les fêtes. Le fait qu'il quitte immédiatement avant, ça en dit long sur à quel point il se sent trahi par le premier ministre, qui depuis des mois répète et répète qu'il ne reculera pas et qu'il était à 100% derrière son ministre et qu'il ne ferait pas ce que Gaétan Barrette s'est fait faire par Philippe Couillard. Ce qu'on en comprend, là, c'est que M. Dubé, d'ailleurs, il a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé, évidemment. Oui. D'abord et avant tout, en déposant une loi qui était mal ficelée, qui a été adoptée en urgence, en plein milieu de la session, par Bâillon. Et on a découvert au fil du temps qu'il y avait plusieurs angles morts à sa loi et que ça impactait le salaire de façon considérable de plusieurs médecins, sans parler, évidemment, des mesures de surveillance qui avaient été mises dans ça et d'un paquet d'autres affaires. Donc, sa part de responsabilité à M. Dubé dans tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est celle-là, elle lui revient. Mais du moment que le premier ministre a décidé qu'il était de dire, en tout cas, qu'il était à 100% derrière lui, de mettre tous ses œufs dans le même panier, au prix, d'ailleurs, de perdre son ministre des Services sociaux, qui lui n'était pas d'accord, eh bien, quand tu as pris cette décision-là, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Parce que là, il se retrouve aujourd'hui à avoir perdu sur toute la ligne. On entend qu'à l'intérieur du caucus, il y avait des gens, évidemment, qui ne comprenaient pas la loi. C'était un gros, gros enjeu. Là. Leur stratégie de communication dans ce dossier-là a été absolument catastrophique, au point où on s'en est déjà parlé, le ministre répondait des webinaires en période de questions. Ça va mal quand il faut que tu parles de webinaire.
Un webinaire, Pascal. Hey, mes collègues, allez écouter le webinaire.
Écoutez le webinaire. Et donc, il se retrouve aujourd'hui à avoir mis ses œufs dans le panier de son ministre, alors qu'il y a plusieurs de ses élus à l'intérieur du caucus. Carman en était un, mais plusieurs autres disaient « ça va trop loin ». Il a dit « regardez, M. Dubé a évidemment beaucoup de tirant d'eau à l'intérieur de ce caucus-là ». Et donc, il s'est rangé derrière lui. Mais là, la loi n'était pas claire. Les députés, ça faisait parler par leurs commettants dans leur circonscription comme quoi les gens étaient inquiets. La panique a pris le caucus et la pression est devenue très, très grande sur François Legault, ce qu'il signe une entente et qu'il mette le couvercle sur cette marmite-là. Mais du moment que lui avait mis tous ses œufs sur Christian Dubé, ben, il n'y avait aucune situation où il sortait gagnant de tout ça. Parce que là, il fait plaisir certainement à certains de ses élus qui étaient très, très inquiets en reculant sur l'essentiel de la loi 2. Mais là, il se retrouve dans une situation où il a perdu Lionel Carman. Là, il perd son ministre le plus apprécié des Québécois, en Christian Dubé. Il écoutait les différentes tribunes sur LCN, Radio-Canada. Les gens sont très déçus de l'avoir quitté. Tu lis les commentaires sur sa publication Facebook. Les gens sont très déçus de l'avoir quitté. Alors moi, dans mes appels ce matin, ce que je ressentais, c'est que oui, Christian Dubé était devenu très intransigeant dans les derniers mois. Il y a des gens qui me disaient M. Dubé a toujours été très ouvert à discuter, a toujours été vraiment fidèle à l'image qu'on avait de lui publiquement, mais dans les derniers mois, il s'est braqué. On m'a dit c'est Christian, il était devenu Christian à les bras croisés. Puis c'était my way or no way. Du moment que tu choisis his way, puis que tu choisis Christian Dubé, eh bien là, faut que tu ailles jusqu'au bout. Et malheureusement, il lui a fait faux bond à la dernière minute et on se met dans ses souliers. C'est certain que ça doit être absolument dévastateur de s'être battu aussi longtemps, d'avoir été aussi certain qu'il aurait l'appui de son chef jusqu'à la dernière seconde et finalement de se faire faux bond. Alors, pour M. Legault, politiquement, si à l'intérieur de son caucus, il vient, encore une fois, calmer une certaine grogne envers cette loi-là, il s'est créé un problème qui est d'autant plus grand que là, il perd une pièce maîtresse de son gouvernement et il amorcera l'année 2026, alors que plusieurs personnes au sein de son équipe se demandent qu'est-ce qu'il va faire. Et présentement, là, les députés, il y en a plusieurs, je vous le garantis, il y en a plusieurs qui se retiennent de prendre la parole pour lui demander de quitter ou pour l'inciter à aller prendre une marche dans le bois. Et là, tout le monde se regarde. Tout le monde sait qu'il y en a plusieurs qui pensent la même chose. Et là, c'est une question de... Tu sais, c'est un peu le jeu du chicken.
C'est une question de qui va l'assumer, là?
Qui va le dire en premier? Qui est-ce qui va se lever en premier? Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des mécontents qui, disons, sont des députés de banquette arrière ou des députés simplement qui sont pas au Conseil des ministres. Et ces gens-là se demandent quand est-ce que les seniors, quand est-ce que les élus qui ont plus d'expérience vont, eux, en arriver à l'évidence qu'à un moment donné, ça peut pas continuer comme ça. Et le plus gros problème du gouvernement de la CAQ présentement, au-delà de toutes les stratégies qu'ils ont mis en place dans les derniers mois pour remonter dans les sondages, c'est que François Legault, les gens ne l'écoutent plus. Et là, ils viennent de mettre dehors son favori du public. Alors, c'est certain que ça ne l'aidera pas personnellement à retrouver la sympathie des gens. Qu'est-ce qu'on fait en allant de l'avant? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Il y a beaucoup de gens au sein du caucus de la CAQ qui ont leur petite idée là-dessus. Et maintenant, c'est entre les mains du premier ministre de décider qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Et s'il veut prendre le risque qu'en 2026, possiblement le bébé qu'il a lui-même créé il y a plusieurs années, mais qu'il l'amène dans sa tombe.
Ben oui, c'est ça. Il y a un risque. Puis je faisais rire de moi. Je me demande si la première personne qui a ri de moi, c'est pas Yannick. Justement, ce serait son genre. Mais j'ai un vague souvenir d'avoir commencé à parler de ça il y a au moins un an, deux ans, en disant où sont les poulains de François Legault. Il y en a plein du talent politique dans sa formation, mais on dirait qu'il ne mettait pas de l'avant. Puis sinon, ben, il écoulait un peu. Lambert, quand on a reçu le premier ministre mercredi, j'ai osé y poser la question. Je savais que ça allait le déranger, mais quand même, tu sais, on veut savoir un peu comment il a préparé sa relève. Et s'il l'a préparé. Bon, d'abord, il n'a pas l'intention de partir. Deuxièmement, il ne va pas nommer des noms parce que ce ne serait pas bon pour lui et les siens, là, ça c'est sûr. Mais troisièmement, il n'a pas répondu point. Il a l'air à dire que tout le monde a du talent puis c'est beau, la pérennité est assurée. Mais ça semble être un discours de politicien. Là.
Mais son problème, c'est que s'il se retrouve le lendemain de l'élection 2026 avec trois députés, là, il n'y a pas le statut de parti officiel. Il choisira qui veut à ce moment-là pour le remplacer. Il y a de fortes chances qu'il soit trop tard.
En effet.
C'est pour ça que je dis, là, c'est plus une question de quel sera le legs de François Legault. Et François Legault, c'est un battant. Il bat jusqu'à la fin. On le comprend, tout ça. Là. Mais tu as créé un véhicule politique que, j'ose croire, tu souhaites voir perdurer pour des années et des années et des années à venir. Et c'est ça qui est dans la balance présentement. C'est pas la réputation de M. Legault, simplement. C'est pas simplement son legs politique. C'est pas simplement l'image qu'on a de lui d'un battant ou pas. C'est est-ce que le véhicule qu'il a créé, il veut le voir survivre à long terme. Et là où moi j'en suis, et là où plusieurs personnes en sont, c'est que nécessairement, la perpétuité de ce véhicule politique-là après les élections de 2026 passe par quelqu'un d'autre comme chef. Et la question, comme vous la soulevez si bien, c'est qui est ce quelqu'un d'autre? Mais bien honnêtement, au point où on en est, ce serait le bonhomme carnaval qui serait là en 2026 que je sais pas si ça pourrait être.
Il y en a-tu qui veulent dans le parti? Il y en a-tu qui voudraient... Tassez-vous, monsieur, de ce que t'entends là, dans les brancards. Tassez, monsieur Legault, puis dire non, on va sauver la coalition, là, on va se resserrer en équipe. Moi j'irais au leadership de la CAQ.
Le problème qu'il y a, c'est que la majorité des gens qui sont identifiés comme étant le possible remplaçant sont également dans l'équipe des très, très fidèles. T'sais, quand on parle de Simon Jolin-Barrette, par exemple, si on en nommait un à l'intérieur du parti, c'est souvent lui qu'on nomme comme le dauphin à François Legault. On l'a vu quand ils ont déposé le projet de loi de la Constitution, il avait vraiment l'air d'un dauphin en attente.
Mais il va falloir qu'il y ait également... une petite pilule de charisme, par exemple, pour se faire élire là, auprès des électeurs. C'est pas celui qui a plus de charisme.
Moi, je suis pas certain de ça.
Moi, je suis encore là. mais je suis prêt à débattre.
je regarde Mark Carney, là, présentement, je suis pas sûr que c'est notre plus fringant et notre plus power. Là,
non, mais il y a déjà plus de charisme que Simon Jolin Barrette. Je te dis, faudrait que je l'aide devant moi pendant une demi-heure, j'analyserais, mais hey, pour moi...
Salut Lambert! Salut Lambert, c'est le bonhomme carnaval.
Ah non, mais toi, tu pourrais dire... Oui.
Je veux juste te dire que ça m'intéresse pas le poste à la CAQ. D'accord?
Je peux comprendre. Je suis bien. Je peux comprendre, bonhomme.
Par
je peux comprendre.
Ouais, mais c'est ça. Par contre, tu peux venir à mon carnaval, hein, ça commence toujours là, aux alentours de la troisième fin de semaine du mois de janvier. Je sais que t'aimes la ville de Québec, Lambert. Tu viendras au carnaval de Québec. D'accord?
C'est sûr, c'est sûr. Je vais essayer de te convaincre de faire le saut en politique. Ce sera un apport considérable
Dans pas long, Jeff,
tu vas
te faire...
voir au château de glace, OK?
Tu vas te faire accuser de surpassion d'identité dans pas long.
Ouais, fait qu'écoute, c'est...
Ben, bonhomme a peut-être plus de charisme que Simon Jolin Barrette, finalement.
Ben oui, c'est pas une question.
OK, arrête
2026,
de
tu veux-tu qu'on rentre là-dedans?
Oui, parce que sinon, je vais trop imiter le bonhomme carnaval, puis là, je vais perdre le fil. 2026, les souhaits pour chacun des partis. Fort simple, la CAQ, on leur souhaite un nouveau chef. As-tu de l'allure, ça?
Ben oui, on leur souhaite un nouveau chef. On leur souhaite un nouveau chef. On leur souhaite un nouveau chef à eux. On leur souhaite un nouveau chef au Parti libéral aussi.
Oui.
Un nouveau chef au Parti libéral. On leur souhaite quelqu'un qui est vierge de tout rapprochement ou connexion ou lien avec quelconque forme d'organisateur libéral un peu louche, de financement qui manque d'éthique. On leur souhaite quelqu'un qui va être capable de reconnecter ce parti-là avec l'électorat francophone. Mm-hmm. C'est leur plus gros défi. Ils ont énormément de difficultés depuis plusieurs années, alors qu'à une certaine époque, le Parti libéral était très fort auprès de l'électorat francophone quand on remonte à Bourassa, quand on remonte même à Charest. Ou qui avait beaucoup moins de difficultés que Pablo en a eu à connecter avec l'électorat francophone. Sinon, ils sont destinés à être confinés à l'île de Montréal, probablement même l'ouest de l'île de Montréal. Maintenant, chef, pas chef, le recul que ce parti-là a pris en seulement 6 mois de Pablo Rodriguez est gigantesque.
Ah oui.
Et le nombre de pots cassés d'un point de vue réputationnel pour ce parti-là, au niveau éthique, au niveau de leur méthode de financement, c'est ce qui leur fait le plus mal. Et alors qu'à un certain point, au cours des derniers mois, avec l'arrivée de Pablo, on se disait, bon, ben, on va retrouver une course à deux en 2026. La fameuse confrontation Parti québécois-Parti libéral, on dirait qu'en ce moment-ci, là, je vois mal comment le Parti libéral peut aspirer à être plus que l'opposition officielle aux prochaines élections, malgré le fait que le premier ministre, dans sa tournée d'entrevue des derniers jours, et j'étais très surpris de l'entendre s'avancer aussi loin, ben lui, il pense que ça va jouer entre la CAQ et le Parti libéral aux prochaines élections.
Ouais, là, le PQ descendra pas tant que ça, là.
Ben on verra, hein? On verra. C'est très, très long, une année politique. Le Parti québécois, écoute, ils sont au haut des sondages depuis tellement longtemps. C'est comme s'ils réussissent à s'auto-pleure de bananiser constamment, alors qu'ils sont dans une situation où ils pourraient juste être...
Es-tu en train de dire que vacuité intellectuelle est pilée moi-même sur une pleure de banane?
Ce que je te dis, c'est que leur projet principal, c'est de faire du Québec un pays. OK? Leur projet principal, c'est de rassembler le plus de Québécois possible autour de leur cause de faire du Québec d'un pays. Et présentement, Paul Saint-Pierre Plamondon est incapable de rassembler ne serait-ce que les gens qui sont supposés déjà être de son bord. Qu'on regarde le Bloc québécois, tu sais, pas capable de s'entendre avec le Bloc, des petites chicanes par-ci par-là, les souverainistes chez Québec solidaire, pas capable de s'entendre, puis c'est vrai des deux côtés, là. Et les artistes du milieu de la culture, qui sont des alliés de toujours pour le PQ. Alors là, si t'es pas capable de rallier les gens qui sont déjà supposés être favorables à ta cause de prime abord, ben t'as un problème. Alors au Parti québécois, ce que je leur souhaite, c'est de la hauteur. Et je vise plus particulièrement Paul Saint-Pierre Plamondon parce que je trouve que le reste de son équipe est très, très, très fiable. Tu regardes Alex Boissonneau, on dirait qu'il a toujours fait ça. Ça fait quelques mois seulement qu'il est député. Super à l'aise. Pascal Paradis, même chose. Catherine Gentilcorps, même chose. Pascal Bérubé, valeur fiable. Fait que s'ils sont autant... Ce que je leur souhaite, c'est une bonne dose de repos à Paul Saint-Pierre Plamondon durant les fêtes et qu'il se positionne durant cette dernière année-là d'ici à l'élection comme un gars qui est premier ministrable, quelqu'un qui est capable d'être en hauteur, qui ne prendra pas chacune des attaques qui viendront vers lui comme une attaque personnelle, parce que plus il va avancer vers l'élection, plus il va être le gouvernement en attente, plus il va en avoir des attaques qui vont fuser de tous les bords, tous les côtés. Et donc, ça, et cette et une capacité aussi à, avec la hauteur, vient aussi être rassembleur. Il faut qu'il soit capable de commencer à rassembler le monde, parce que si effectivement il veut faire un référendum dans un premier mandat, ben d'abord et avant tout, il faut qu'il se fasse élire. Pour se faire élire, il doit les gens doivent pouvoir l'imaginer dans le poste de premier ministre. Je suis pas sûr que c'est le cas présentement. Et si jamais il finit effectivement par le devenir et qu'il veut faire un référendum, il va avoir besoin de tous les votes qui lui sont favorables pour espérer se donner une chance dans ce référendum-là. Alors, plus de hauteur et plus rassembleur pour 2026 pour le PQ.
Oui, bien sinon, Jeff, moi, l'exemple qui venait en tête quand j'écoutais Lambert parler, c'est ce qui s'est passé du côté des libéraux au fédéral. On était sûr qu'il n'allait pas repasser. Puis finalement, avec la longueur de la campagne,
en
avec
effet.
Donald Trump qui arrive, il suffit
d'un
événement.
Tu as raison, on a un exemple avec les conservateurs qu'on pensait tous qu'ils allaient gagner les élections, qu'ils ne les ont pas gagnées.
Mais cet exemple-là, messieurs, dames, là, tout le monde le sort. Là, tout le monde veut trouver son Mark Carney. Là. Moi, je tiens à dire là, que dans l'histoire de la politique fédérale canadienne, et vous savez que j'étais avec Pierre Poilievre, cette semaine en entrevue, et je lui en ai parlé de ça à M. Poilievre, de comme « Hey, on s'entend-tu que vous avez été victime probablement de la séquence la moins chanceuse de toute l'histoire de la politique canadienne.
»
Il était premier pendant des mois, tout le monde parlait déjà de lui comme le futur premier ministre. Là, Trudeau s'en va, espèce de sauveur incarné avec le profil parfait, Carney arrive, Trump rentre en poste, il parle du 51e État, il dit qu'il veut nous envahir, la panique prend, les gens ne votent pratiquement exclusivement sur la question de qui va être la meilleure personne pour lui faire face, et là, c'est Carney qui finit par rentrer. Cette séquence d'événements-là, faut pas prétendre que ça peut réarriver à chaque année ou à chaque deux ans.
En effet.
Mais si le PQ...
De chercher le sauveur, là.
Ah non,
je suis
mais...
pas sûr qu'il y en a là, de sauveur.
Moi, je te parle d'un événement. Puis là, cette fois-ci, c'était l'élection de Trump. Fait que si, mettons, il se passe un événement, puis là, pour une raison X, on se dit, Caroline, le référendum, intérêt souverainiste et autres, ça passe pas. Puis qui continue à aller de l'avant, ça se peut qu'on voit un peu les intentions de sondage descendre. Mais
non, en effet,
dans n'importe quel parti, il y a tout le temps un revirement de situation à... au pire, au coin de la rue. Là.
Lambert, il nous reste 2-3 minutes. Qu'est-ce qu'on souhaite à QS? Depuis tantôt que j'y pense, puis je ne sais pas quoi leur souhaiter. Ils s'assument à gauche, sont heureux à gauche. On leur souhaite-tu juste de rester dans leur bonheur de licorne et de pouliche?
Ouais, je fais attention là, en disant ça. Je pense que c'est important d'avoir une formation politique.
T'as raison.
À gauche, au Québec, qui s'affirme, puis qui se...
Qui fait la promotion de ces idées-là.
Oui, c'est ça. Un parti qui s'assume, c'est le mot que je cherchais. Un parti qui s'assume à gauche, je pense que c'est très bien. Puis on l'a vu à quel point Québec solidaire a eu un impact dans les dernières années en mettant de l'avant la crise du logement, en reconnaissant les droits des locataires. Puis le gouvernement aussi en est venu à reconnaître la crise du logement par la suite. Fait que c'est important d'avoir un parti comme ça. Le problème présentement, c'est que tu as l'impression qu'après l'ère Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, qui avait cette capacité-là non seulement à donner une crédibilité au parti, mais à aller chercher l'attention, eh bien là, on dirait que c'est même plus une question de les gens, ils pensent-tu telle affaire ou pas telle affaire de ce que Québec solidaire fait. C'est comme si les gens sont... C'est comme s'ils étaient devenus un petit peu insignifiants. Je ne sais pas si c'est trop fort comme mot, mais
en anglais,
le mot, ce serait « irrelevant », là, tu sais. Ça, c'est la pire affaire, là. Tu préfères que les gens taillissent de tous les bords, tous les côtés, que les gens te trouvent insignifiant. Et ça va être ça leur défi, de trouver une façon pour eux, après le départ de Gabriel Nadeau-Dubois et de Manon Massé, de continuer à faire parler d'eux. Et donc, ce que je leur souhaite pour 2026, eh bien, c'est de se trouver une étoile au sein de leur parti pour prendre la pôle des étoiles qu'ils vont quitter. J'ai en tête Guillaume Clich-Rivard et je leur souhaite surtout de garder leur statut de parti officiel parce que présentement, si on regarde les intentions de vote, ils ne feraient élire que de 0 à 4 députés. Pour être un statut de parti officiel, il faut que tu aies 12 députés ou 20 % du vote. Présentement, ils sont à 8-9 % du vote. Alors, pour Québec solidaire 2026, une étoile. Moi, je pense qu'ils devraient miser tous leurs pions sur Guillaume Clich-Ribard. C'est clairement leur parlementaire le plus efficace. Et pour ce qui est de l'élection, ben, je leur souhaite de garder leur statut de parti officiel. Petit mot sur Éric Duhaime.
Ben oui, est-ce qu'on lui souhaite ou non Maïté Blanchette-Vézina? Parce qu'en Pascal, on s'est fait raconter en détail ce matin ce rendez-vous au Il Teatro.
Ben oui,
les pâtes qu'Éric Duhaime a mangées.
Le fait qu'il va présenter à sa famille.
Ben écoute, non. Moi, je leur souhaite pas Maïté Blanchette-Vézina. Je vais t'avouer, là, de la façon dont elle a quitté la CAQ, tu te dis, tu sais, tu l'embarques dans ta gang le jour où ça va vraiment mal aller à shop parce que ça va être la première à te jeter en dessous de l'autobus. Je comprends qu'il y a besoin de quelqu'un pour la faire entrer à l'Assemblée nationale. Si ça lui permet d'avoir de la visibilité d'ici là, tant mieux. Mais ce que je lui souhaite surtout, c'est de continuer à se positionner comme une option crédible à tous les autres partis politiques. Mm-hmm. Dans une situation où, présentement, là, on a vraiment l'impression que tu as beaucoup d'électeurs au Québec qui sont orphelins politiques, qui regardent la CAQ, qui disent « Oh boy, moi, François Legault, oublie ça », qui regardent le Parti libéral, qui disent « Oublie ça, les fling-flang, les brownies, oublie ça », qui regardent le Parti québécois, qui disent « Référendum, moi, oublie ça ». Mais là, c'est une occasion en or pour Éric Duhaime de dire « Écoutez, si ces trois partis-là ne font pas le job, nous, on est là ». On a une plateforme qui est crédible, qui est fiable. On est revenu, on est passé à autre chose sur les histoires de pandémie, puis de vaccination, puis d'affaires de trans ou de personnes dans les bibliothèques, là, j'ai oublié le nom, mais c'est tous ces enjeux de genre. Les drag queens dans les bibliothèques, c'est beau, là. Il y en est visiblement revenu, c'est très bien. Je lui souhaite, considérant qu'il a quand même été cherché 10 % en 2022 du vote, mm-hmm. c'est un déficit démocratique quand même important, de faire finalement son entrée à l'Assemblée nationale, parce que présentement, il y a des gens au Québec qui vont voter pour lui et qui ne sont pas représentés dans l'enceinte.
Excellent point. Lambert Drainville, je te souhaite de joyeuses fêtes. Je te souhaite un excellent début d'année 2026. Tu sais à quel point on apprécie faire de la radio avec toi et qu'on va continuer à en faire en 2026.
Oui, puis si je peux dire un petit mot avant de vous laisser. Moi, j'ai commencé mes affaires au mois de mars. Personne ne savait j'étais qui. J'ai commencé à faire mes petites vidéos sur mes médias sociaux. Et Leclerc Communication et Boulevard 102.1 a été la première radio à me donner un poste récurrent où je reviens à chaque semaine. Alors, je voulais vous remercier pour la confiance de toute l'équipe
plaisir envers
moi. Je trouve qu'on a développé une belle complicité. Je trouve que vous avez des beaux collaborateurs sur vos différentes émissions. Évidemment que j'ai un parti pris pour mon cher ami Farnell Morissette, mais je pense que le Boulevard 102.1 et les radios de Leclerc Communication plus généralement ont un fort potentiel de croissance au courant des prochaines années et j'espère pouvoir continuer d'en faire partie.
Bien, en tout cas, c'est sûr que tu es signé pour l'année 2026 à l'émission d'Angeance. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal Séveille?
Absolument.
On est d'accord. Quand on a le saut d'approbation, Pascal Séveille, on passe à l'action.
Je vous aime, Pascal. Hey, je t'aime.
Aussi.
JF, je t'aime.
Joyeuse fête. Lambert. Salut, joyeuse fête. C'était Lambert Drainville, excellent vulgarisateur d'actualité, qui est avec nous deux fois par semaine, les mercredis et vendredis. Pascal, on veut en savoir plus sur cette entente entre les médecins. Eh bien, Pascal Renaud de la Fédération des médecins omnipraticiens, c'est le représentant ici pour la région de la Capitale-Nationale, va être avec nous en studio après cette courte pause.
Extrêmement hâte de l'entendre. C'est des enjeux qui concernent tout le monde. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes au travail, mm-hmm. vous, là, qui écoutez, ça vous concerne, c'est certain.
Exactement. Donc, restez avec nous. Il s'en vient immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, On en jase.
Vous êtes plusieurs à écouter nos nouveaux shows et manquez-nous pas dans la période des fêtes parce que 22, 23, 24 décembre, c'est moi, Pascal Cévé, Mathias Turcotte de 7h à 10h le matin. Max Larouche est là pour le point de Max de 11 à 13 et Audrey Pinchot est là également pour les meilleurs moments de Gravel dans le retour de 14 à 18. Le Gravel du temps des fêtes le 24 décembre en rediffusion le 1er janvier. Puis la fin de semaine, ben Pascal, c'est notre excellente programmation. Ça change pas. Ça va être ça en fin de semaine. Ça va être ça les deux fins de semaine du temps des fêtes. Le Rock and Chill de 7 à 10. Le Boulevard du Rock avec soit Dan Caron ou Colosse. Dan Caron le samedi, Colosse le dimanche. Et le Rac-A-Mat de 15 à 17 heures. Donc, soyez avec nous durant cette belle période. Retour de la programmation officielle le 5 janvier. Sans Marceau. Ça va être encore moi, toi et Max Larouche. Et Toi, en plus, tu te permets un petit 29, 30, 31 décembre de 7 à 10 avec Mathias Turcotte.
Absolument. Je serai présente aussi pour passer 2025 dans le tordeur.
Ouais, exactement. Pascal, on en jase. C'est une émission où on jase des affaires importantes.
Mm-hmm. Ouais, pis là, déjà, les gens jasent avec nous par texto sur le sujet.
Là. Exactement. On a déjà plein de textos qui sont rentrés et on a le plaisir d'avoir avec nous le président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec et médecins à l'urgence de l'hôpital L'Enfant Jésus, Pascal Renaud. Monsieur Renaud, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Good. Pascal, c'est une belle journée pour les médecins avec cette offre qui est acceptée à 97%.
Oui, c'est une belle journée pour les médecins, mais c'est aussi une belle journée pour les patients.
Okay.
Parce que moi, depuis qu'on a annoncé une entente de principe, je n'ai pas de nouveaux médecins qui m'ont annoncé qu'ils allaient quitter.
OK, oui, donc en ce sens-là.
Pour moi, c'est un gros plus qu'on a eu là, suite à ça. Puis, dès qu'on a pu annoncer à nos médecins là, l'entente de principe, on s'est déjà mis au travail, puis on a rencontré tous les médecins qui nous avaient écrit qu'ils allaient démissionner, ceux qui nous disaient qu'ils allaient prendre leur retraite prématurément. Mais on en a rencontré pour dire, bien, écoutez le webinaire, écoutez ce qu'il y a comme entente de principe. Après ça, allez voter si elle est prise, si elle est acceptée par l'ensemble des médecins. Puis réévaluer la situation. Mm-hmm. Parce que pour nous autres, je suis venu vous voir, hein, c'était 34 médecins qui avaient annoncé qu'ils quitteraient. Donc là, dans ceux que j'ai rencontrés, il y en a au moins une quinzaine déjà qui m'ont dit qu'ils allaient rester grâce à cette entente-là.
Grâce à cette nouvelle
Donc,
entente.
Ça, c'est probablement autour là, de 15 000 patients qui ne perdront pas leur médecin.
Il y a des gens qui nous écrivent, puis c'est ça, là, on le voit tellement. Il y a de la frustration dans le public, là, si on veut, là, pas entre nécessairement le gouvernement puis votre équipe. Mais il y a quelqu'un qui écrit, ça veut-tu dire que les Québécois se sont encore fait avoir si l'entente a été acceptée à 97%.
Ben en fait, moi, j'ai eu beaucoup de « oui, mais ». J'ai voté « oui » parce que l'alternative, c'était la loi 2. Mm-hmm. La loi 2, ça coupait la rémunération entre 15 et 50 là, pour les médecins qui avaient fait des simulations. Donc, c'était pas une option. Hein. C'est un peu comme « c'est ça ou je te coupe une main ». Donc, les gens ont voté oui, mais il y a quand même encore de l'insatisfaction, il y a encore des inquiétudes chez les médecins suite à cette entente-là.
Concrètement, comment on va réussir? Parce que François Legault a dit que ça va être des milliers, des dizaines de milliers de Québécois qui vont avoir un médecin de famille avec cette entente-là. Concrètement, comment on va réussir à faire ça?
En fait, moi, j'ai déjà rencontré les leaders des cliniques lundi dernier. Je leur ai dit, écoutez, on a une certaine obligation là, auprès de la population parce qu'ils nous ont quand même appuyés là, pour faire retirer la loi 2 qui était une mauvaise loi.
Mm-hmm.
Puis on leur doit quelque chose. Donc on a essayé de faire un brainstorming ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en prendre plus? Puis déjà, dans les idées qui sont sorties, il y a des médecins qui vont engager du personnel supplémentaire pour les aider pour les cas qui sont un peu plus faciles. Donc un travail de collaboration avec des infirmières puis qui vont nous permettre de prendre en charge plus de patients.
Est-ce qu'il y a assez d'infirmières disponibles pour ces embauches-là?
Bien, il y en a beaucoup hein, qui sont partis du réseau public. Il n'est pas très attrayant, le réseau public, là, pour les infirmières. Il y en a qui sont allés dans des compagnies d'assurance. Il y en a qui sont allés dans le privé. Il y en a qui sont allés dans des soins esthétiques. Donc, on est probablement capable d'aller en chercher dans ces infirmières-là qui ont déjà quitté le public. Notre but, ce n'est pas de déshabiller le public, les amener dans le... On est aussi le public là, en GMF, mm-hmm. mais d'aller les chercher comme infirmières là, qu'on
par
engage
exemple,
à même nos revenus. Là. Donc, le but, c'est pas aller les prendre dans le public, mais il y en a plusieurs qui ont déjà quitté, qu'on est probablement capable d'aller chercher dans un travail qui va être stimulant pour elles aussi. Là.
On avait parlé de beaucoup de fermetures, justement, de cliniques avec la loi 2. Qu'est-ce qu'il y en est avec la nouvelle entente? Parce que là, tu parles de personnel additionnel qui va être ajouté. Fait que je me dis, est-ce qu'il y a une bonification salariale pour les médecins? Comment ça va fonctionner?
Ben, en fait, actuellement, les médecins, dans la loi 2, il y avait un retranchement de 30 % de leurs revenus qui était envoyé directement mm-hmm. aux cliniques. Puis ça agaçait les médecins. Nos frais de bureau ressemblent à peu près à ce 30 %-là. Là. Mais est-ce qu'il y avait une garantie de service si ça allait directement à eux par rapport à une fois que je paie mes frais de bureau, mais je m'attends à avoir des services puis j'ai une meilleure relation en disant « mais tu as certaines obligations par rapport à moi ». Donc ça a été enlevé. Donc ça laisse les médecins là, plus satisfaits puis avec une meilleure espérance de garder des services là, qui sont avec ça. Par contre, les cliniques qui menaçaient de fermer dans la région, il y en avait trois. Je ne sais pas si on en avait parlé.
Oui, oui.
C'est des bails qui venaient à échéance. Puis le contrat GMF est un contrat qui, à chaque année, changeait. un gros point positif de cette entente de principe-là, c'est qu'on a gelé pour 5 ans les conditions du programme GMF. Donc, une clinique peut maintenant se projeter dans le temps jusqu'à 5 ans, à savoir, bien, je connais les paramètres qui seront là, puis je ferai un budget en conséquence, puis je peux m'engager sur un bail de 5 ans.
Ce qui n'était pas le cas
avant, non.
Les médecins de famille aussi déploraient le fait qu'ils étaient traités un peu comme les autres spécialités, puis même les autres spécialités, on devait les découper une à une parce que le projet de loi était englobant, point. Il n'y avait pas vraiment de réflexion faite par rapport à une spécialité comme la médecine familiale. Puis, il y a un haut pourcentage de médecins qui ont en haut de 50, en haut de 60 ans là, dans ce cas-ci. C'est des médecins qui, encore en pleine dévotion de leur personnes au niveau personnel et professionnel qui traitent des patients, qui envoient, qui donnent un sapré coup de main au système de la santé. Comment est-ce que le nouveau projet de loi ou avec ses arrangements, etc., on est capable de faire en sorte de les garder dans le réseau, mais de peut-être alléger leurs horaires de travail, les laisser avoir une liberté pour tout ce qu'ils ont offert à la société dans les dernières
années? C'était très, très important pour nous autres quand on était à la table de négociation, ce point-là.
Parce qu'ils vont juste quitter, sinon, pour en perdre dans un gros batch.
Dans la capitale nationale, là, c'est 30 % de nos médecins qui ont plus de 60 ans. Puis ils suivent un patient sur trois, c'est 34 % des inscriptions individuelles, c'est eux qui les font.
C'est fou, là.
Donc, dans cette entente-là, on a réussi à obtenir...
Tu les envoies dehors, puis ils reviennent pas, là.
On a réussi à obtenir quelque chose d'important, là. Un médecin de 60 ans ou plus peut continuer sur le mode actuel, s'il le préfère, par rapport au mode de capitation qui s'en vient.
Quelle est la grosse différence, justement, entre le mode actuel puis le mode de capitation?
Bien, le mode actuel, c'est 100 % acte. Hein. Mm-hmm. Je fais un acte médical, j'ai un revenu associé à cet acte-là, point. Le mode de capitation, bien, il y a trois volets. Le fait de s'engager à prendre un certain nombre de patients va donner un montant associé à ce patient-là. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Qu'on le voit une fois ou qu'on le voit 9-10 fois dans l'année, ça va être le même montant. Le montant va varier, par contre, si le patient est un patient très vulnérable, un cancer en phase terminale, mm-hmm. versus un jeune homme de 15 ans qu'on risque de ne pas voir. Donc ça, il va avoir ces adaptations-là. Mais c'est la première fois
que... Faut pas qu'un médecin mette, mettons, 20-30 patients de 15 ans sur sa liste.
C'est parce que ça sera pas... Il y aura pas une grande rémunération qui va être associée à ça. Donc, ça sera... Le but, c'est quand même qu'on prenne les plus vulnérables. Mm-hmm. Puis dans les 500 000 qu'on vise à prendre, on s'est engagé à prendre les 180 000 vulnérables. Là. Ça va être la priorité. Puis ça, c'est pas nous qui les choisissons, c'est les guichets d'accès qui nous les envoient. Puis eux ont eu une missive en leur disant, bien, ça sera ceux-là qu'on envoie en premier. Puis... C'est ça qu'on veut voir les patients les plus malades là, quand on est médecin. On veut aider les gens qui en ont le plus besoin. Là.
Au niveau de ce qui a chopé avec le gouvernement, au niveau du ton, au niveau de la relation, peut-être une petite parenthèse sur le fait que Christian Dubé a démissionné ou s'est fait mettre à la porte. Là. Ça dépend de ce qui s'est passé entre les murs. On n'a pas vraiment l'histoire.
Moi non plus.
Vous non plus?
Non.
Aucune information à ce niveau-là?
Aucune.
Étiez-vous surpris?
J'étais plus ou moins surpris parce que l'attitude qu'il y a eu dans les derniers mois était vraiment... de dire que c'est important que cette loi-là reste intégrale. Puis, on a réussi quand même à changer certains des articles parce que nous, on est sur le terrain. On voit les effets de cette loi-là. Puis, on a réussi à sensibiliser le premier ministre au fait que même si la loi visait à prendre plus de patients, mais l'effet concret sur le terrain de plusieurs de ces articles-là était fait qu'il y en ait moins de médecins qui restent, donc moins de patients qui soient pris.
Vous sentez qu'il y a de votre bord, François Legault, ou vous sentez qu'il le fait parce qu'il veut se faire réélire?
Ben, d'après moi, un politicien veut toujours se faire réélire.
Oui,
donc, j'ai de la misère à répondre à cette question-là. Mais je pense que les patients qui ont manifesté à leurs députés des inquiétudes, moi, j'en ai rencontré plusieurs députés. J'ai plusieurs médecins du territoire qui ont dit aux députés, ben, je ne sais pas ce que le gouvernement vous dit, ce que votre ministère vous dit, mais concrètement, les impacts vont être négatifs. Puis, les députés que j'ai rencontrés m'ont assuré qu'ils allaient monter ça plus haut. Est-ce que ça a quelque chose à voir? Probablement, mais...
Je termine là-dessus. Vous parlez de 500 000 nouveaux Québécois qui vont avoir un médecin de famille. 180 000 de ceux-ci sont des patients vulnérables. C'est quand la date où ces 500 000-là et ces 180 000-là vont avoir un médecin de famille?
L'objectif qui nous a été dit, là, c'est le 30 juin prochain.
OK, donc ça vient vite.
Il faut qu'on s'active rapidement. Puis il faut aussi que Santé Québec... mettre en place des mesures pour qu'on réussisse à atteindre ça. Là.
Mm-hmm.
Donc, des cliniques où le personnel n'est pas tous fourni, pas remplacé, il va falloir qu'il y ait une activation de leur côté pour s'assurer qu'on ait tous les bras pour nous aider à atteindre ça.
Est-ce qu'ils se sont engagés à le faire?
Santé Québec, ça a été très silencieux à l'automne. Moi, je ne les ai pas entendus beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de rencontrer des gens de Santé Québec.
Non. Mais
pour moi, je n'ai pas entendu beaucoup de gens de Santé Québec se prononcer à l'âme.
Donc, ça va être la prochaine chose à suivre, Pascal Cévé. Au retour des vacances de Noël, il faut parler avec quelqu'un de Santé Québec. Parce que le 30 juin, ça vient vite, puis on veut que ces 500 000 personnes-là aient leur médecin.
Nous aussi, on veut. Là.
Ouais. Pascal Renaud, merci d'être passé en studio avec nous. C'est super intéressant. Je le rappelle, Pascal Renaud, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Joyeuse fête!
Bien, merci, joyeuse fête à vous et à vos auditeurs aussi.
Merci de continuer à prendre soin de la santé des Québécois, c'est très important. Je sais que toi, personnellement, tu vas travailler à l'urgence durant le temps des fêtes, donc merci d'être là, honnêtement, je reconnais et je salue l'excellent travail que vous faites.
Oui.
Bien, merci.
Fait joyeuse plaisir. Fête, vraiment.
Oh, oui.
Là.
Oui, vous le méritez, après cette année rocambolesque, vous méritez d'avoir des bonnes fêtes et une bonne année 2026 sans trop de négociations avec le gouvernement. Je pense que ça vous ferait énormément de bien. Après la pause, Pascal, on passe de la santé, on va parler d'éducation parce que Rémi Villemur, un chroniqueur qu'on adore, qui est là d'habitude le jeudi, mais qui s'est fait voler sa place par Bruno Marchand hier. Mais là, j'ai dit, Rémi, viens finir l'année 2025 avec nous. Puis il veut nous parler de grandes règles en éducation qui ont changé, qui avaient fait un tollé, puis finalement, on se rend compte, c'est donc bien cool.
Ça a bien fait.
Le cellulaire, l'interdiction du cellulaire à l'école. On va revenir sur ce grand changement dans le domaine de l'éducation avec notre chroniqueur Rémi Villemur immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
J'en parlais avec Jeff récemment parce que, tu sais, acheter une maison, revoir un peu ses plans, mettre de l'argent de côté, le budget, c'est tellement important parce que c'est un rêve. C'est souvent le rêve d'une vie pour construire une famille. Puis c'est souvent le rêve d'une vie aussi pour une retraite. Des fois, partir de la maison est grande, est grande, est grande. T'es tanné de faire le ménage. Je vais peut-être t'en rendre compte pendant le temps des fêtes. Tu veux changer d'air. Bien, Emmanuel Lamantia, il est là pour ça. C'est 32 millions de volumes de vente, 70 transactions. Puis ça, c'est juste en 2025. Attendez de voir 2026. Et 100% de taux de satisfaction client. Pourquoi? Bien, c'est parce que c'est un gars qui travaille très, très fort. C'est un courtier Remax qui a su très, très bien tirer son épingle du jeu.
Son épingle du jeu, Pascal Cévé. Je t'annonce que ta semaine où tu as fait 6 heures de radio par jour, donc 30 heures de radio, se termine dans 29 minutes.
Moi, pour vrai, en plus, ce courtier-là, à chaque fois que je pense à lui, je me dis, tu sais, quand t'es brûlé, puis j'en parle, ça, quand t'es brûlé, t'as besoin d'un gars de même, c'est un gars passionné, qui travaille le corps et âme, c'est un gars qui va boxer pour aller chercher les clauses légales que tu veux, le prix, etc., mais aussi qui va être le meilleur pour vendre ta maison, puis finalement, mais c'est pour ça. C'est parce que si t'es dans mon état actuellement, puis que t'es quelque peu fatigué, puis que la fin de semaine va faire du bien, t'as besoin d'un gars de même pour gérer ta vente,
là,
ton achat.
Parce que là, vendre une maison, là, si fait que c'est compliqué.
Je te jure, je le ferais pas même bien en forme. Fait que t'as besoin d'Emmanuel Lamantia. C'est le courtier qui fait bouger le marché. C'est un courtier Remax, comme on vous disait. Il est de Neuville à Loretteville, de Sainte-Brigitte à Lac-Saint-Charles. Puis surtout qu'il y a un panneau bleu-rouge qui se plante, bien, il est pas loin. C'est pourquoi qu'on dit qu'il se distingue beaucoup. Donc, si vous avez envie de laisser ça entre les mains d'un expert et de vous enlever cette charge mentale, il y en a un nom, Emmanuel Lamantia.
Donner des cadeaux pendant les fêtes, c'est compliqué. Ton nom
raconte l'actualité.
Boulevard 102.1.
On en jase. Dernière émission de l'année 2025 qui tire à sa fin. On sera de retour en 2026, évidemment. On aime bien trop cette émission-là. Et on sait que vous l'aimez également. On vous rappelle de faire très, 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 très attention sur les routes parce que la température qu'il fait actuellement, c'est 5 degrés, mais avec de la pluie très forte, ça peut aller jusqu'à 50 mm de pluie, mais c'est surtout les rafales de vent qui peuvent aller jusqu'à 70 km/h. Donc, soyez prudents sur la route, en plus, si vous quittez la région, et on vous signifie que si vous quittez la région, téléchargez l'application Boulevard 101 sur le App Store et Google Play Store. Pascal, justement, tu m'as fait un petit signal de circulation.
C'est un peu plus tranquille qu'à l'habitude pour le début de l'heure de pointe. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont tombés en congé, mais c'est de la pluie de la vraie, hein. C'est pas de la fausse.
Oh, non, non.
Donc, ça crée certains incidents aujourd'hui. Henri IV Sud, je vous en parlais au début de l'émission, hauteur chemin des Quatre Bourgeois, c'est la voie de droite qui était partiellement entravée. Il y avait un accident, mais c'est terminé. La seule chose, c'est que ça crée un ralentissement. Je n'ai pas d'informations au niveau de la panne de voiture dans la voie centrale sur le pont La Porte. Si jamais quelqu'un peut m'en redonner, je serais très heureuse. 88-971-1021.
On va de ce pas rejoindre notre chroniqueur qu'on adore du 99.5 Montréal, Rémi Villemur. Rémi, c'est un bonheur de terminer l'année radio 2025 avec toi.
Et moi, je précise que c'est un honneur.
Oh, wow! Es-tu gentil, ce Rémi-là?
Ça rime en plus.
Rémi, j'ai aimé ça parce que tu me disais, hey, Jeff, je voudrais parler de certains règlements qu'on a imposés en 2025 et revenir là-dessus. Puis ton premier, je l'adore, c'est le règlement de l'interdiction des cellulaires à l'école qui avait fait une tollée. C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Des parents qui s'inquiétaient. Comment je vais faire pour rejoindre
décidez
mon enfant?
Décidez pas pour nous ce qu'on va faire avec nos enfants.
On a le droit de choisir.
On les a payer les cellulaires, on choisit.
C'est ça. Puis moi, je dois l'admettre, j'étais parmi ceux qui disaient « Hey, on est mieux de faire de la pédagogie que d'interdire. » Mais là, j'ai un ado à la maison qui est en secondaire 4. Puis je me rends compte qu'il l'utilise, moi, à la maison, son cellulaire, qui est plus souvent dehors avec ses chums.
J'aime tellement ça.
Qui s'est fait des nouveaux amis à l'école parce qu'au lieu d'avoir la face dans le cellulaire, il a la face dans le monde. Fait que je me dis... Wow! Je suis donc bien content de cette
Luc
décision-là.
Luc Paquette, le directeur de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne, qui a dit « C'est le jour et la nuit dans mes corridors. Ouais. Les jeunes se parlent. »
T'es-tu d'accord avec notre évaluation, Rémi?
Ah, ben oui, tout à fait. En fait, la proposition que je veux vous faire pour le reste de votre émission, c'est de revenir sur des bonnes nouvelles pour 2025. Puis il y en a deux des trois qui touchent l'aspect des règlements, pour entourer de règlements. Par contre... Le téléphone cellulaire, ça, c'était un règlement supplémentaire commandé par l'État, ministère d'Éducation. Puis là, on pouvait être méfiant, on pouvait se dire qu'est-ce qu'ils font à se mêler de tout ça. Puis surtout, moi, j'ai entendu toutes sortes d'affaires ridicules. J'ai entendu des directions d'école me dire à la fin du printemps, au début de l'été, me dire « Hey, de toute façon, même si c'est une bonne idée, on ne réussira pas. T'sais. Les jeunes, ils vont arriver, ils vont se cacher des téléphones cellulaires dans les culottes, ils vont rentrer. sont tellement dépendants qu'il va falloir ouvrir des locaux de décompression. » Puis je disais « Pardon, j'ai pas bien compris. » J'ai pas bien compris. Ben, des locaux pour qu'ils puissent décompresser. Puis là, je disais « Écoute, moi, je les connais, les jeunes, puis ils sont capables de s'adapter. » Et Pascal vient de le faire. Le consensus est à peu près établi. Ils s'en sont remis. Ah oui, ils en ont été capables. C'est-à-dire que c'est une drogue, mais ce n'est pas l'héroïne non plus. Donc, c'est un truc dont on peut se passer. Et voilà, donc ils s'amusent, ils discutent, ils vont voir les comités d'activité, puis ils disent, on pourrait-tu s'ouvrir un local pour jouer aux échecs? On pourrait-tu faire des jeux vidéo? Là, il y a de la résistance, des fois, il y a un compromis. Non, mais ils ont retrouvé une solution. Donc, moi, je nous dis, en 2026, puisque l'année s'en vient, si vous entendez des gens... démissionner d'avance. Là. Tu sais, des gens devant une bonne idée ou une proposition, disent ça se peut pas, on peut pas, ils seront pas capables. Ben, rappelez-leur l'exemple de l'interdiction du téléphone cellulaire. Il y avait une catastrophe annoncée, puis elle a fait comme bien des catastrophes annoncées. Elle s'est pas annoncée, elle s'est pas présentée.
Ce que j'aime aussi, c'est cette génération-là aime les trucs un peu vintage, aime ça revenir à ce que nous, on a connu. Oui. Il y a comme une tendance à ça. Puis le fait des entendre être heureux même pour plusieurs, de ne pas avoir le cellulaire à l'école, puis de trouver ça cool. Là. Pour eux, c'est le fun, c'est cool, on est à l'école. Ça me remplit de bonheur parce que c'est vrai que ça va faire des meilleurs individus. Ces jeunes-là qui vont sociabiliser ensemble, qui vont prendre le temps de faire des niaiseries. J'en veux des niaiseries dans les corridors de cours d'école, de peu importe. Je veux que les jeunes aient leur jeunesse, qu'il y ait un système de débrouillardise qui se développe en justement étant capable d'occuper leur temps. Ça s'est perdu, puis ça se voit en société, ça.
Oui, puis tu sais, il faut toujours se rappeler une chose. L'école, ça nous prépare à la vie, mais c'est aussi une période très particulière où on peut se permettre des affaires que la vie ensuite nous empêche un peu de vivre. Là où je veux aller, c'est que, on le sait, le télétravail a remplacé beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques d'emploi. Beaucoup de gens sont en télétravail. Donc, si les jeunes se dessinent et se destinent à un monde où le télétravail va occuper une place prépondérante, on peut-tu, pendant les 5 années que dure l'école secondaire, leur enlever les écrans de la face le plus possible? Parce qu'ils vont tomber de toute façon dans la marmite après. Donc, c'est là que je vous dis qu'il faut protéger cette période. C'est une période précieuse où ils peuvent apprendre à jouer. Puis moi, j'ai entendu cette semaine une affaire, ça m'a fait capoter. Là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il manque de... OK, c'est correct, là, pas de téléphone cellulaire en classe, mais là, il manque... de divertissement à l'école, tu sais, il manque de ballons, tout ça. Je dis, hey, moi, là, quand j'avais, puis c'est pas grave, je n'ai pas de leçon à donner à personne, là, mais quand j'avais 13 ans et qu'il manquait un ballon pour jouer ou un filet pour jouer, on prenait des sacs à dos, on faisait des filets avec. Donc, on en mettait un là, ça faisait un but.
Et
fictif.
Voilà.
Ensuite, on reculait pour aller les aligner avec l'autre but à une distance. Puis là, ensuite, on n'avait pas de ballon, on avait une balle de tennis, par contre. Mais on jouait au soccer avec une balle de tennis.
C'est ça.
C'est important pour les jeunes d'apprendre à faire quelque chose avec rien ou avec peu.
Système D.
Puis à traficoter des affaires.
Ah oui, système D, créativité, imagination. Tu sais, des réflexes, justement, qu'on avait perdus chez notre jeunesse que là, on retrouve.
Puis, je vais pas faire de généralité, mais moi, l'autre jour à l'épicerie, je dis, je suis restée sans connaissance. Mon amie, elle aime ça, un petit coupon, un petit coupon. Faut qu'elle passe son petit coupon. Fait que c'est correct. T'sais, on l'haït, mais on l'aime pareil. Fait qu'elle arrive à la caisse, puis là, faut qu'elle passe son petit coupon. Bon. Mais la jeune fille qui est en avant, puis rien contre elle, c'est juste que clairement, ça n'a pas été travaillé, ce système D-là. Elle arrive, elle dit, je sais pas c'est quoi.
Je sais pas c'est quoi, puis mais je ferai pas d'action.
Non, il n'y avait plus rien qui se passait. OK, est-ce que tu as jamais vu le coupon? Non, je sais pas c'est quoi. Donc, mais tu sais, mettons, mon ami était comme, je le prends toutes les semaines, là, je le fais passer, parfait. Ben peut-être que tu peux aller voir un de tes collègues, peut-être. Mm-hmm. Ah, oui, OK, attendez. Ça, là, pour moi, ça en dit.
Ben oui.
Juste assez pour qu'on se concentre peut-être sur le système D de nos enfants.
Et excellent commentaire d'Isabelle par texto 418-971-101 pour réagir. Elle dit, ce sont les parents dépendants celui-là qui ont eu peur. Mon fils est vraiment content de cette décision. Ça rejoint exactement ce que tu disais, Rémi.
Ouais.
Bon, règlement de cellulaire, on est content. La vie est belle. Ça a redonné justement du social dans nos écoles. Mais Rémi, il y a des règles qui n'ont pas de sens, puis on l'a vécu cette semaine. La butte de neige à 3 mètres avec le compas. Là, j'ai tout vu sur les médias sociaux. Des policiers qui entourent des enfants sur les buttes de neige. Un enseignant avec son compas, sa butte de neige. J'ai vu plein d'images ridicules. Mais ce qui est positif là-dedans, c'est quand il y a une règle ridicule de même qui arrive, la société s'est tellement levée contre qu'il a fallu que le premier ministre dise « OK, je tolère les buttes de neige ». Ça,
oui,
c'est le fun.
Ben oui, il y a du bon là-dedans parce que la réaction, encore une fois, presque, je pense qu'on peut même dire un consensus. Il n'y a personne sur la place publique, en tout cas, qui était disponible pour une entrevue et pour venir défendre ces règles-là. Je peux vous dire, on les a cherchées. On en voulait des bons segments radio cette semaine, puis ils ne voulaient pas sortir. Donc, soit ils sont absents, soit ils ont honte de défendre cette position-là. Et donc, c'est une bonne nouvelle que le gros bon sens triomphe, que le gros bon sens... Par contre, réflexion en vue de 2026, hein? Peut-être que le gros bon sens n'a pas le pouvoir, finalement, au Québec. Parce que les gens qui ont décidé de cette règle-là, ils ont le pouvoir d'écrire des recommandations puis de les envoyer dans des directions d'école. Fait que peut-être que le gros bon sens, la bonne nouvelle de 2025, c'est qu'il s'exprime à chaque fois que des règles niaiseuses comme ça sont imposées. Mais le chantier n'est pas terminé. Le gros bon sens doit peut-être reprendre le pouvoir et être
sur
le pouvoir décisionnel.
Imagine la personne qui a fait de la rédaction de ça. À aucun moment, c'était-tu comme la caissière à l'épicerie? Je ne sais pas quoi faire avec ça. C'est correct. Imagine...
Minorité agissante. Ben oui.
Imagine être celle qui fait le communiqué.
En effet, c'est trop drôle. Mais oui, en effet, il faut vraiment... que le gros bon sens prime dans chacune des décisions. Moi, je suis toujours pour savoir si j'ai du gros bon sens. Je m'imagine devant un scrum de journaliste. Puis si je suis gêné de parler, je sais, bon, ça n'a pas de sens ce que je pense ou la décision que je vais prendre. Change ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Rémi, tu voulais parler aussi de l'eau stagnante en santé. C'est-à-dire, est-ce que tu vois par là l'entente qu'il vient d'avoir avec les médecins où on a l'impression qu'on est encore dans du pareil au même, qu'on change pas les paradigmes, puis là, ben on pourrait se retrouver encore dans 3-4 ans à jaser des mêmes problèmes dans le système de santé?
Non, non, non. En fait, j'ai dit qu'il y aura du changement politique en 2026.
Ouais.
Et j'ai dit que l'on soit pour ou contre ce qui s'en vient. L'eau stagnante, c'est dangereux pour la santé. Fait que ça veut dire que... C'était pas très clair, je suis désolé.
Il n'y a pas de problème.
Ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir du changement en 2026. Que l'on soit de gauche ou de droite, c'est sûr qu'on peut constater peut-être qu'on va être perdant. Mais c'est bon pour la santé quand il y a du changement dans un usage politique. Puis l'eau stagnante, ça veut dire quand ça reste trop longtemps, quand c'est la gauche qui est là trop longtemps, ou même quand c'est la droite qui est là trop longtemps, à un moment donné, c'est dangereux pour la curiosité, pour l'imagination, pour les projets de société. On pense les projets de société de la même façon. On développe les mêmes réflexes, puis on est paresseux. Donc là, il va y avoir des affaires qui vont changer en 2026. À Québec, je veux dire, peut-être que Québec solidaire va malheureusement payer le prix de plusieurs erreurs qu'ils ont commises cette année. Peut-être que la CAQ va débarrasser. Peut-être que les libéraux vont se trouver un nouveau chef et reprendre du galon. Peut-être que, si la tendance se maintient, le PQ va former le nouveau gouvernement. Et ça, je sais que ça effraie beaucoup de gens de savoir qu'il va y avoir du changement. Le changement, ça fait peur. On préfère la routine, on préfère les choses, les bonnes vieilles chaussettes. Mais c'est bon pour la santé, le changement. On va penser le politique différemment. Il y a des nouvelles propositions qui vont se faire. Il y a des nouveaux personnages. Hey, pensez-y deux secondes. On a parlé de Christian Dubé pendant des années, de Bernard Drainville pendant des années, de toutes ces, de Geneviève Guilbeault pendant des années. Normalement, là, à l'automne, ce ne seront plus les ministres de la santé, des transports, de l'éducation. C'est Il va y avoir des nouveaux ministres, des nouvelles personnes auxquelles on va pouvoir s'intéresser. Puis même pour nous, dans les médias, ça va faire du bien.
Oui, c'est comme, je compare ça un peu, ce que tu viens de dire là, Rémi. Puis là, c'est parce que je vais faire une analogie de sport parce que j'écoute beaucoup de sport. Mais c'est comme une équipe qui a le même noyau depuis 5-6 ans puis qui n'a jamais réussi à obtenir de très bons résultats. Et là, ben, à un moment donné, le directeur général dit « OK, c'est beau, j'échange lui, on en rentre deux nouveaux, ben craqué. » Puis paf, cette équipe-là, finalement, réussit à aller chercher des résultats. Puis là, on s'entend en politique, ça ne se ressemble pas à CAQ, ça risque d'être le PQ, mais ce que je veux dire, c'est à changer des éléments au sein du gouvernement, on va redonner une énergie positive et ça peut créer des beaux projets de société.
Ben oui, tu as raison. Donc, avant l'élection, il va y avoir des nouveaux... Déjà, il va y avoir des nouveaux visages, fait que ça va nous amener ailleurs. Il y a des gens dont on entendait le nom souvent, puis on ne savait pas qu'ils avaient des idées, à peine une personnalité. Ces gens-là, on va pouvoir les découvrir cette année. Puis, tu sais, je comprends les gens d'avoir peur du changement. Puis moi, je vous souhaite une résolution à tous les Québécois. Prenons des risques en 2026.
Ah oui, j'aime
ça. Prenons des risques. J'ai appris aujourd'hui que la volonté entrepreneuriale au Québec, elle est supérieure à celle aux États-Unis. Ils ont sondé les Québécois. Hein? Ils leur ont demandé s'ils voulaient partir ou non une entreprise dans les trois prochaines années. 27,4% des Québécois ont dit « Dans les trois prochaines années, j'aimerais ça avoir une entreprise, me partir en entreprise. » Ils ont posé la même question aux Américains, puis ça arrivait à 23%. Donc, ça veut dire que les Québécois, qui partent de loin, parce qu'il y a beaucoup plus de PME partout au Canada, ben, en tout cas dans beaucoup de provinces au Canada qu'au Québec, mais je pense qu'il y a quelque chose qui souffle au Québec. Il y a une prise de risque qu'on est peut-être prêt à assumer. Puis quand on prend un risque, des fois, on se pète la gueule, mais la victoire est tellement belle.
Ça devient passionnant après prendre des risques.
Ouais, j'adore, Rémi Villemur, qu'on termine l'année 2025 de On en jase avec ce beau souhait-là. Mon chum, tu sais comment qu'on adore faire des chroniques avec toi? Tu sais que tu vas être de retour en 2026 à l'émission On en jase.
Puis c'est la rumeur.
Ben, c'est pas juste une rumeur, c'est confirmé. Entre-temps, je te souhaite de joyeuses fêtes, un bon début d'année 2026. Je te souhaite une belle soirée. Te dis, hey, là, moi, je tombe en vacances puis je m'en vais m'en déboucher. Ben, let's go. Bonne soirée avec tes chums dans une taverne ou un bar près de chez vous. Profite de la vie, mon ami, puis on se reparle en 2026.
Bye-bye à vous deux. Merci beaucoup. Vous êtes très, 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 très le fun à rencontrer à chaque mardi puis à chaque jeudi.
Ah, c'est merci,
partagé.
Rémi Villemur.
Joyeuse fête, Rémi.
Salut, joyeuse fête. Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal, qui fait des chroniques avec nous normalement les mardis jeudi. Mais là, on se l'était gardé en petit cadeau de fin d'année.
Pour clôturer le tout.
Ah, on en jase. Hey, Pascal, c'est déjà la dernière émission d'On en jase en 2025.
C'est déjà la dernière émission. Je pensais avoir un petit débat de fin avec Rémi, mais on était d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ben non, c'est ça, exactement. On était d'accord. Pascal CV, ça a été un bonheur cette année-là de radio avec toi, cette saison de radio-là.
Cette saison-là, oui.
Ah oui, on va reprendre ce bonheur-là en 2026.
On va arriver fringant en bonne santé.
Mais avec nos auditeurs qu'on adore, merci, on a énormément d'interactions.
Merci pour la confiance, parce qu'on sait qu'on a bousculé vos habitudes d'écoute hein, dans chacune des émissions. Mm-hmm. Merci pour cette confiance-là.
Vraiment.
D'avoir tendu l'oreille puis de nous avoir accompagnés, parce que nous autres aussi, on avait un plaisir fou à vous accompagner.
Ah, clairement, continuez à interagir comme ça avec nous au 418-971-1021 en 2026. Merci, on reçoit des souhaits de bonne année 2026. L'émission On en jase, c'est la fin pour l'année 2025. On est de retour le 5 janvier 2026. Mais évidemment, Jeff Fortin, Pascal CV, vous allez les entendre le matin 22, 23 et 24 de 7h à 10h. Et Pascal va être avec Mathias les 29, 30 et 31 également de 7h à 10h. C'est le retour de Gravel, la dernière de la saison également, qui suit à l'instant même de 14 à 18h. Et par la suite, c'est le garage à Dan qui s'installe pour commencer le week-end.
Pour ceux
façon.
Qui étaient là avec nous ce matin, oubliez pas.
C'est vrai, oubliez pas. Il y a un cadeau à gagner à 17h.
Un secret à quelque part.
Chut, chut, par texto. Salut
Arrête.
Tout le monde.
Ah oui, bye.
Salut tout le monde. Joyeux site, salut.